7h-9h, Europe 1, matinale spéciale débarquement. Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus avec nous dans cette matinale spéciale D-Day. Nous sommes le 6 juin 2019, 75 ans jour pour jour après le débarquement des Alliés ici, ici même où nous avons installé le studio de la matinale d'Europe 1 aujourd'hui, la plage d'Aromanche. Oui, parce que d'abord il y a ces plages de Normandie, ces plages où vous vous trouviez peut-être récemment pour un week-end entre amis, en famille, en liberté parce que des hommes ont eu le courage de débarquer. La mémoire encore vive, vous l'entendrez ce matin avec mon invité Marie Scott, 93 ans, décorée de la Légion d'honneur. Hier, le 6 juin 44, elle était à Portsmouth pour le guidage des opérations par radio. Elle entendait en direct les coups de feu, les combats, son rôle dans la guerre, son message pour la jeunesse. Témoignage exceptionnel sur Europe 1 à 8h15. La jeunesse justement avec le formidable travail au long cours d'un enseignant passionné, inquiet pour l'avenir, cet enseignant et certains de ses élèves à 7h15 tout à l'heure. C'est une matinale spéciale sur Europe 1 avec les héros d'hier et ceux de demain. Témoignage exclusif à 7h45 avec des hommes que vous n'avez jamais entendus et que vous n'entendrez probablement plus après. Maël et Steven, ils ont une vingtaine d'années. Ils seront aujourd'hui commando marine, l'élite de notre armée. Ils terminent leur formation éprouvante et recevront leur béret vert aujourd'hui des mains d'Emmanuel Macron pour l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui pousse des jeunes vers cet engagement? Charles Villeneuve a pu recueillir ce témoignage précieux. Nous échangerons à 8h moins le quart et vous les entendrez. Sur Europe 1, vous ne manquerez rien ce matin. Les cérémonies, l'anniversaire du débarquement, les questions que cela nous pose, la liberté, le sacrifice, l'engagement, la paix en Europe, matinale spéciale, on est ensemble jusqu'à 9h.
Europe 1 vous fait revivre le débarquement. Thierry Geffretin.
Nous sommes le 6 juin 1944, il est 6h59. Une information officielle tout d'abord. Depuis 1h10 cette nuit, toutes les troupes allemandes stationnées entre Saint-Malo et Caen sont en alerte. L'annonce des largages de parachutistes non identifiés dans la Manche et plus à l'est vers Caen. Et j'ajoute, je vais mettre le conditionnel pour cette information, des troupes auraient débarqué il y a moins d'une demi-heure sur la plage de Saint-Martin-de-Varville dans la Manche et un autre débarquement serait en cours entre Vierville-sur-Mer et Colville-sur-Mer, c'est dans le Calvados. Impossible à ce stade de vous dire s'il s'agit d'une opération de grande envergure, si le débarquement dont on parle depuis plusieurs mois a vraiment commencé.
Et tout au long de cette matinale spéciale, vous allez revivre ce débarquement en temps réel, toutes les demi-heures, avec Thierry Geffretin.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour cette matinale spéciale. Excellent réveil, il est 7h. Et on vous retrouve, Mathieu Béliard, en direct d'Aromanche jusqu'à 9h.
À 7h, le journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
À la une de l'actualité ce matin.
Alors, eh bien, on parlera évidemment très longuement de ces commémorations du débarquement. Mais tout d'abord, on va écouter une archive.
Europe 1.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
C'était donc le 6 juin 1944 sur la BBC. Le général de Gaulle, qui dirigeait le Comité français de libération nationale, annonçait ainsi le début des opérations alliées en Normandie. Les commémorations de ce 75e anniversaire s'ouvrent ce matin en présence de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudeau, vous allez suivre le chef de l'État tout au long de ce 6 juin. Quel est le programme ?
Des commémorations, du recueillement et une pincée de politique. Voilà à quoi va ressembler ce 6 juin pour Emmanuel Macron. En tout début de matinée, 8h30, rendez-vous à Vaires-sur-Mer pour une cérémonie en présence de Theresa May, la pose de la première pierre d'un mémorial britannique. Mais l'image que tout le monde attend, elle se fera à la descente d'un hélicoptère au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Il sera 11h, le couple Macron accueilli par le couple Trump. La poignée de main entre les deux présidents sera scrutée de près. La relation entre les deux hommes s'est tendue ces derniers mois. Les regards en diront peut-être long. Une séquence mémorielle qui sera suivie d'un déjeuner de travail Macron-Trump à Caen, où l'Élysée promet d'aborder tous les sujets difficiles du moment. Enfin, pour le président français, cette journée se terminera par un hommage aux 177 commandos Kieffer, des combattants français qui ont débarqué en Normandie. Pour l'Élysée, le symbole de l'engagement et de la défense de la liberté et de la démocratie. Des symboles qu'Emmanuel Macron aime particulièrement manier lors de ce type de commémoration.
Jean-Rémy Baudeau, vous nous ferez vivre donc cette journée aux côtés d'Emmanuel Macron. Quelques 500 vétérans, souvent centenaires, participeront aux commémorations. Et parmi eux, l'Américain Gene Kleindel, un vétéran de 96 ans dont la petite retraite ne lui permettait pas de se payer le voyage. Il n'est d'ailleurs jamais revenu en France depuis la guerre. Et grâce à une cagnotte, il est là aujourd'hui. Xavier Yvon, vous êtes allé le rencontrer avant le grand départ, chez lui, près de Chicago.
Oui, je suis allé le voir dans sa maison perdue au milieu des champs de l'Illinois. Gene Kleindel m'a ouvert sa porte en uniforme avec toutes ses décorations et un grand sourire ingénu.
Parlez-vous français ? Oui, oui.
Ce sont les quelques mots de français qui lui restent 75 ans après. Ce qu'il n'a pas oublié, c'est le débarquement dans une mer déchaînée, les blessés qu'il allait chercher sous les tirs de mortier, les villages traversés. Saint-Lô, dont il ne restait plus qu'un immeuble debout, et les horreurs quotidiennes pendant 11 mois de campagne. Là-bas, j'ai compris que notre vie ne valait rien, dit-il. Quand je suis rentré au pays, je ne me sentais pas important. Une modestie qui accompagnera Gene toute sa vie. Alors savoir que des Français ont donné de l'argent pour qu'il puisse revenir en Normandie, cela provoque chez lui une joie presque enfantine.
Je me sens comme une rockstar. Je suis heureux de recevoir votre gratitude. Ça me fait du bien. Je ne savais pas que nous étions si importants. On dirait que ça vaut le coup maintenant d'avoir fait tout ça. J'aimerais que ceux qui sont dans les cimetières s'en rendent compte, eux aussi.
Aujourd'hui, Gene arrive enfin à se dire fier d'avoir participé, un peu, selon ses mots, à la libération de la France.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Au total, près de 30 000 personnes sont attendues en Normandie pour participer à ces cérémonies.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Et finalement, pas de fusion entre Fiat Chrysler et Renault. Il est 7h04.
Il est 7h06, matinale spéciale sur Europe 1 en direct d'Arromanches en Normandie pour le 75e anniversaire du débarquement avec vous, Mathieu Béliard.
Oui, mais tout de suite, la suite du journal d'Hélène Zélani, on l'a appris dans la nuit. Fiat Chrysler renonce finalement à sa proposition de fusion avec Renault.
Oui, il s'agissait de former le numéro 3 mondial de l'auto. Le constructeur italo-américain a perdu patience et a donc décidé de retirer son offre de fusion. Impossible d'obtenir un engagement rapide de Renault, Emmanuel Dutheil.
Les conditions politiques ne sont pas actuellement réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement. Fiat ne pouvait pas être plus clair pour expliquer le retrait de son offre. Le constructeur italien pointe le responsable, l'État français. Contre toute attente, Bercy a demandé à la dernière minute un nouveau délai. La raison, le ministère de l'économie voulait obtenir un vote positif des représentants de Nissan. Les Japonais, qui avaient des doutes sur ce rapprochement, voulaient plutôt s'abstenir. Bruno Le Maire voulait donc du temps pour les convaincre de l'intérêt de ce rapprochement. Au moment où l'alliance connaît de grosses turbulences, Bercy ne voulait pas ajouter encore de la tension. Mais cette agitation politique a entamé la patience de Fiat. Du côté de l'État français, on se dit surpris par ce retrait. Une telle opération ne peut pas se faire en 10 jours sans associer tout le monde, dit-on à Bercy. La direction de Renault était pour sa part énervée. Le constructeur français perd en effet une occasion de grossir. Quant à Fiat, il va devoir trouver d'autres alliés pour rester dans la course au moment où tous les constructeurs font face à des investissements gigantesques pour préparer l'avenir.
Emmanuel Dutheil, les services d'urgence au bord de l'explosion. Les personnels ont d'ailleurs prévu de se faire entendre sous les fenêtres du ministère de la Santé à la mi-journée à Paris. Ils sont en grève depuis près de 3 mois. Un mouvement qui toucherait quelques 80 établissements selon le collectif Interurgence, une cinquantaine selon le gouvernement. Si on en croit le JDD, la ministre de la Santé Agnès Buzyn devrait finalement s'inviter aujourd'hui au congrès des urgentistes et faire des annonces pour tenter de mettre fin à cette grève. Valérie Pécresse claque la porte des Républicains. La présidente de la région Île-de-France l'a annoncé hier soir dans le journal de France 2.
J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement. J'ai plaidé pour la clarification vis-à-vis de tous ceux qui, aux Républicains, susurrent qu'on ferait bien d'aller faire une alliance avec l'extrême droite. Nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction. Il faut se remettre au travail.
Réaction du député LR Éric Ciotti. Dans les moments difficiles, on ne quitte pas le navire. Et puis la mairie de Lyon et le domicile de Gérard Collomb perquisitionnés hier. C'est une enquête préliminaire sur les emplois dont son ex-compagne aurait bénéficié à la mairie pendant plus de 20 ans. Le football, hier soir, Neymar s'est foulé la cheville pendant un match amical entre le Brésil et le Qatar à Brasilia. Le joueur du PSG affronte un moment difficile avec une plainte pour viol déposée par une jeune brésilienne. Lui clame son innocence et se dit victime d'un piège. Au PSG justement, premier effet du mercato d'été, Gian Gianluigi Buffon, le gardien italien, s'en va après une seule petite saison, Jean-François Pérez.
Le mythique gardien italien était arrivé à Paris pour son prestige, bien sûr, mais également pour aider le PSG à franchir un cap décisif en Ligue des Champions. C'est raté. Certes, Gianluigi Buffon repart avec un titre de champion de France sous le bras, mais pour le reste, le bilan n'est clairement pas à la hauteur des espérances. 25 matchs joués, autant de buts encaissés, c'est énorme pour le PSG. Et puis des bourdes trop nombreuses, celle terrible face à Manchester United, un tir sans grand danger, mal maîtrisé, le deuxième but des Anglais, puis l'impensable élimination. Le PSG ne s'en est jamais vraiment remis, pas plus que le champion du monde italien, auteur de nouvelles boulettes tout au long de la saison. À 41 ans, il quitte donc Paris sans qu'on sache qui a réellement mis un terme à la collaboration. Pour le remplacer, il y a bien sûr Alphonse Areola, l'international français, Kevin Trapp, l'allemand, toujours sous contrat. Mais les supporters rêvent de voir arriver une star, PSG oblige. Et pourquoi pas le gardien des Bleus, Hugo Lloris, qui fait partie des pressentis.
Jean-François Pérez.
Merci Hélène Zélani. Prochain journal à 7h30 sur Europe 1.
Europe 1.
Matinale spéciale débarquement. Mathieu Béliard.
Et vous êtes Mathieu sur les plages d'Aromanche pour suivre les commémorations du débarquement aujourd'hui. Mais où se trouve notre reporter Martin Feneau?
Bonjour Martin, vous êtes où ce matin?
Bonjour Mathieu, je me trouve écoutez sur le tarmac de l'aéroport de Cherbourg où je viens de revivre un moment historique, le parachutage des forces américaines. Il a été rejoué par des passionnés de l'histoire du débarquement en uniforme d'époque avec tout le barda. J'accompagne l'un d'eux, Nicolas Ancelin, et je vous emmène à bord d'un bimoteur de légende, un C-47 Dakota qui a servi pendant la guerre.
Ça sent une odeur un peu particulière d'huile et de métal dans cette vieille carlingue construite en 1943. Donc là, on décolle. Voilà, là, c'est parti.
C'est assez impressionnant parce que l'avion s'incline et s'il s'inclinait un peu plus, je pense que ça passerait par la porte. Et là, pendant ces minutes de vol, c'est une sorte de recueillement. Et donc, on pense à ces gamins de 19 ans qui, dans une nuit noire, ont sauté pour libérer la France. La lumière rouge s'est allumée, qui indique qu'on est sur zone.
Là, c'est la minute de vérité.
Check equipment!
Check equipment!
Go!
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 Tout va bien, je me laisse porter, tout va bien. Le vent me pousse de ce côté-là. Donc je vais tourner pour me mettre dès maintenant face au vent. Je suis pas mal du tout là.
Martin, combien de temps dure la descente?
1 minute 30, hein, donc c'est très court. C'est un saut à basse altitude, 300 mètres, atterrissage dans un champ, comme certains soldats américains de l'époque. Même si bien sûr, là ce n'est qu'une reconstitution.
Nous on saute, en bas il y a des bières qui nous attendent, c'est la fête. Eux, comme disaient certains paras, ils faisaient des sauts où les problèmes commençaient après l'atterrissage, parce qu'ils étaient derrière les lignes ennemies.
D'autres parachutages auront-ils lieu dans les prochains jours, Martin ?
Oui Mathieu, tout le week-end et le plus important est prévu lundi. 900 militaires américains, français, néerlandais et allemands vont sauter près de Sainte-Mère-l'Église dans la Manche.
L'occasion de revivre ce 6 juin 44 où 13 000 jeunes américains ont sauté en parachute derrière les lignes ennemies. Merci Martin Feneau.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre l'édito éco signé Nicolas Barré. On va parler de la concurrence italienne qui arrive sur la ligne Paris-Lyon. Et puis à 7h20, votre matinale spéciale en direct d'Aromanche qui continue les 75 ans du D-Day. Aujourd'hui, parlons du devoir de mémoire, de la transmission aux jeunes avec le travail effectué, formidable travail effectué par un prof d'histoire géo à Caen. Il a monté un projet avec des élèves allemands, polonais, regards croisés sur ce débarquement. À tout de suite.
Et il est 7h15, matinale spéciale en direct d'Aromanche ce matin. Mathieu Béliard avec un point sur l'économie, c'est l'édito éco avec la Banque Nugé. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Nugé, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et nous sommes donc avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Bientôt, il sera possible de faire un Paris-Lyon à bord d'un TGV italien. Comme pour l'avion, la concurrence arrive.
Oui, et sur la ligne la plus rentable de la SNCF, dans à peine un an, une filiale de Trenitalia, qui est la SNCF italienne, va proposer des billets Paris-Lyon. La concurrence, vous le voyez, arrive donc très vite. La réforme votée l'an dernier se met en place. L'ouverture des lignes TGV à la concurrence est prévue pour décembre 2020, mais Trenitalia bénéficie d'une exception. Elle exploite déjà une ligne Paris-Venise dont les trains s'arrêtent à Lyon et c'est donc à ce titre qu'elle va pouvoir concurrencer la SNCF sur cette ligne ultra rentable dès le mois de juin 2020.
Et c'est un coup dur pour la SNCF.
Oui, alors c'est d'abord a priori une bonne nouvelle pour les passagers parce que vous savez, on n'a pas trouvé mieux que la concurrence pour stimuler la qualité de service avec Trenitalia et sa filiale qui s'appelle Tello. Eh bien, c'est un concurrent sérieux qui débarque avec des rames toutes neuves, des trains qui iront aussi vite que ceux de la SNCF, 2 heures pour Paris-Lyon, un service à bord de qualité. Alors bien sûr, la SNCF n'est pas restée les bras croisés, elle s'y prépare depuis un moment en essayant de couvrir d'ailleurs tout le marché depuis le haut de gamme avec Inouï jusqu'au low cost avec Ouigo. Mais forcément, ça lui fera des passagers en moins, surtout d'ailleurs que sur le haut de gamme, parce que les trains italiens partiraient à 7h de Paris le matin, à 20h de Lyon le soir, pour capter justement la clientèle d'affaires qui veut faire l'aller-retour dans la journée.
Nicolas, est-ce que ce sera vraiment la fin du monopole de la SNCF ?
Alors oui, la SNCF conserve quand même des avantages considérables, d'abord parce qu'il y a une offre beaucoup plus importante avec une multitude d'horaires, et puis ensuite, il va falloir faire de la place aux trains italiens Gare de Lyon à Paris, alors que toute la gare aujourd'hui est conçue pour la SNCF. Mais enfin oui, c'est une brèche dans le monopole qui se conjugue d'ailleurs avec la mise en concurrence progressive de certaines liaisons régionales comme Marseille-Nice bientôt. Et pour ces lignes, c'est d'ailleurs un peu différent puisqu'on choisit un seul concessionnaire, la SNCF ou un de ses concurrents. Il n'y a que pour le TGV qu'il pourra y avoir plusieurs opérateurs en même temps. Mais quoi qu'il en soit, la SNCF va commencer à apprendre à vivre avec une concurrence directe, plus seulement celle de la route ou de l'avion. Et ça, c'est une vraie révolution.
Merci Nicolas Barré, l'édito Écho tous les matins à 7h15 sur Europe 1.
Europe 1,
7h-9h,
matinale spéciale débarquement.
Il est 7h18, votre matinale spéciale en direct des plages du débarquement continue. Avec vous Mathieu Béliard et à vos côtés une jeune lycéenne française, un lycéen allemand. Ils ont travaillé depuis plusieurs mois sur ce débarquement, regard croisé pour comprendre l'autre. Un projet mené sous la houlette d'un jeune professeur d'histoire géo de l'Institut Le Monnier de Caen.
Oui Céline, et je suis avec ce prof d'histoire géo, Ludovic Cagné. Vous avez donc entamé ce travail et ce lien entre la mémoire, la construction européenne. Quel est le rôle de la bataille de Normandie, du débarquement dans tout ça ?
Eh bien, nous, on est parti du postulat qu'en Normandie, l'histoire avec un grand H se lie avec l'histoire familiale et personnelle de pas mal de Normands. Là où beaucoup de pays européens sont combattus les uns contre les autres, se sont retrouvés après à travers les cérémonies. Et je trouve, moi, depuis 1945, la première cérémonie, qu'il y a un moment, une pause en Europe. Et
un terrain de guerre qui devient finalement cet endroit où on va se retrouver, oui, et on va célébrer ensemble.
Tout à fait. Et là où je trouve que c'est encore plus beau, c'est depuis que 2004, où on a invité officiellement les Allemands à nous rejoindre dans les célébrations. Je trouve que là, la boucle, elle est bouclée.
Isabelle Bournier, vous êtes historienne au mémorial de Caen et en charge des affaires culturelles et pédagogiques. Justement, là, on travaille, on va entendre des adolescents dans un instant. La part de scolaires dans les visites au mémorial de Caen, c'est un quart des visites. Vous recevez beaucoup de jeunes, très jeunes enfants.
Oui, alors on reçoit des scolaires et puis des enfants qui viennent en famille. Et le mémorial produit, c'est vrai, chaque année un énorme travail pédagogique et ça nous intéresse énormément.
Pourquoi, à votre avis, ce mémorial arrive à garder ce dynamisme et finalement cet attrait de la jeunesse ?
Parce que le mémorial a vraiment pour premier souci de transmettre l'histoire. Avant la mémoire, il y a l'histoire. Parce que la mémoire, c'est une question très complexe et il faut connaître l'histoire pour l'appréhender correctement.
Léa est avec nous aussi, lycéenne ici à l'Institut Le Monnier. Alors je ne vais pas demander à une Caennaise si elle avait visité le mémorial de Caen, ça paraît parfaitement évident. Mais dans ce travail que vous avez entamé il y a plus de 2 ans entre des élèves, je le rappelle, allemands, polonais, français, avec des voyages, vous avez pu vous rendre en Allemagne, à Stuttgart, il y a quelques mois. Dans ce travail, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, finalement ? Qu'est-ce que vous avez appris ?
Je vais parler pour moi, mais je vais aussi parler pour le groupe de Français en général. Je pense que ce qui nous a le plus surpris, c'était qu'il y avait une résistance en Allemagne.
Des résistants allemands ?
Oui.
Vous savez que je suis sûr que certains de nos auditeurs l'apprennent ?
Oui, comme beaucoup de gens, oui.
Oui, ça a été une révélation. Il y avait dans l'autre camp, si j'ose dire, des hommes et des femmes qui se battaient pour les mêmes causes.
Oui, ça surprend beaucoup.
On est aussi avec Amar, qui est un élève allemand. Je vais vous poser la même question que Léa. Depuis que vous êtes en France, ici en Normandie, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, interpellé ?
Ce qui m'a surpris le plus en Normandie, c'est qu'on voyait si beaucoup des vétérans de la guerre et avec plein de décorations de la guerre, des médailles, et quelque chose qu'on ne voit pas
en Allemagne
Frankreich so
à cause de notre histoire très sévère.
Sehr überraschend, weil
et la fierté nationale dans la France, ils trouvent très très surprenant parce que ça n'existe pas en Allemagne comme ça.
Là, je vais me tourner à nouveau de votre côté, Ludovic Cagnier, parce que finalement, il y a eu dans ce travail, sur le long cours, cette idée qu'on allait casser quelques idées reçues, qu'on allait avoir une évolution dans la réflexion de ces élèves.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était de partir des perceptions des jeunes, sans brut, sans rien leur donner. Et à travers ce travail qu'on fait là pendant 2 ans, en allant vers l'autre, en allant chez l'autre, c'est de voir comment ils vont évoluer sur leur conception de l'histoire et de l'Europe. Et pour l'instant, à mi-chemin, nous, on est très fiers du travail qui est accompli, et notamment des réflexions et de l'implication des élèves dans le projet.
Léa, aujourd'hui, vous êtes une jeune Française. On entend, disons, beaucoup de mal de l'Union européenne ces derniers temps. On la remet en cause. Ces années, ces décennies de paix et de prospérité, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans un avenir de manière assez sereine, ou est-ce que la situation entre ces pays européens vous inquiète ?
Un petit peu, oui, parce que l'avenir, c'est notre génération. Aujourd'hui, c'est nous qui allons faire l'avenir, et on n'est pas tous sur les mêmes opinions par rapport à ça. Du coup, oui, ça m'inquiète un petit peu.
Je vous remercie. On a quelques pistes de travail, je vous le disais, cette matinale sur les héros d'hier, ceux de demain, ceux qui construisent demain. Je voulais absolument que vous entendiez ces voix ce matin sur Europe 1. Merci à vous cinq d'avoir partagé vos expériences.
Merci à vous. Mathieu Béliard sur Europe 1. À suivre, Mathieu, l'innovation du jour.
Avec Anissé Mbida et une chronique spéciale commémoration, Anissé.
Oui, vous allez voir, on va pouvoir avoir des conversations avec les survivants de la guerre.
A tout de suite sur Europe 1.
Bon réveil avec Mathieu Béliard sur Europe 1, il est 7h23. Matinale spéciale sur Europe 1 en direct d'Arromanche avec vous Mathieu Béliard, il est 7h26 et EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu.
Il reste de moins en moins de survivants de la Seconde Guerre mondiale, mais on a trouvé une nouvelle façon d'immortaliser leurs souvenirs, des témoignages interactifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Anissé ?
Eh ben, c'est assez simple. Au lieu de lire des mémoires ou de regarder un enregistrement vidéo, là, qui est plutôt figé, linéaire, on va pouvoir interroger par exemple un ancien combattant et lui poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Par exemple, où étiez-vous le jour du débarquement ? Quel est votre meilleur souvenir de l'époque ? Tout ce qu'on veut. Et il va nous répondre à travers un hologramme comme s'il était là, juste devant nous.
Ça existe déjà quelque part, Anissé ?
Oui, ça se passe au musée de l'Holocauste aux États-Unis, où les élèves viennent régulièrement échanger avec des hologrammes d'anciens survivants de guerre. Et c'est une technologie qui a été mise au point par l'Université de Caroline du Sud. Elle utilise l'intelligence artificielle qui remixe des heures et des heures et des heures d'enregistrement de témoins. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est redoutable parce qu'il n'y a pas mieux qu'une conversation les yeux dans les yeux pour transmettre la mémoire.
C'est bien vrai. Merci, Anissé Mbida. 7h27 sur Europe 1.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann. Mais tout de suite, c'est la météo avec vous, Laurent Cabrol.
Alors, bonjour Laurent, rebonjour.
Heureux.
Je voudrais quand même dire qu'ici, comparé au 6 juin 1944, on a un temps absolument merveilleux sur la plage d'Arromanche. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à venir voir, suivre cette matinale spéciale en vidéo sur europe1.fr. Laurent, vous n'allez pas me dire le contraire, là c'est dégagé, c'est magnifique.
Ben je vais dire le contraire, malheureusement, je vais dire que ça va pas durer. Ça va pas durer, c'est-à-dire que ça va, effectivement nous avons de très belles éclaircies, mais au fil des heures ces éclaircies vont s'effacer, vous verrez, et vous aurez malheureusement quelques averses aussi, mais beaucoup moins qu'hier. En tout cas pour la France, c'est un peu, nous sommes entre deux dépressions, c'était le cas en 44, la dépression d'hier qui nous a amené beaucoup de pluie, celle de demain qui va nous amener un temps vraiment très très agité, et nous avons ce répit d'aujourd'hui sur l'ensemble du pays d'ailleurs, pas seulement sur la basse Normandie, sur l'ensemble du pays. Et ce répit, nous allons le savourer parce que, franchement, ensuite, ce ne sera pas très sympa. Donc, les éclaircies aujourd'hui pour le sud-ouest, le Massif central, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. À Paris, nous aurons aussi peut-être une ondée, même certainement une ondée ou deux, mais ce ne sera pas trop, trop long. Et en ce qui concerne la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique et l'Anjou, là, franchement, ce sera de plus en plus mauvais au fil des heures. Bref. Allez, on va se consoler comme cela en regardant les températures. Entre 18 et 24 degrés, il en fera 20 à Paris et 18 à Caen.
Merci Laurent Cabrol, la météo sur Europe 1. À suivre, avant 8h, Jean-Michel Apathy, les 75 ans du débarquement. C'est aussi 75 ans de paix en Europe. Et ça veut dire quelque chose, on en parle. 7h43, Axel de Tarlé. Et qui est-ce qui consomme du Made in France? Les retraités, vous allez l'entendre. Et puis à 7h45, ce témoignage exceptionnel, celui de futur commando marine, l'élite de l'armée française, des militaires qui ne s'expriment jamais. Jamais. Cet après-midi, le président Emmanuel Macron va leur remettre le béret vert. C'est une première et Charles Villeneuve les a rencontrés en exclusivité pour Europe 1. Excellent réveil à tous.
Europe 1 vous fait revivre le débarquement. Thierry Geffretin.
Nous sommes le 6 juin 1944, il est 7h29. Je vous confirme que des opérations de débarquement sont en cours sur plusieurs plages normandes depuis 6h30. À Sainte-Marie-du-Mont, dans la Manche, tout près de l'estuaire de la Vire, des troupes américaines appuyées par une trentaine de chars amphibies ont pris pied sans difficulté apparente dans ce secteur. Selon une source militaire, le nom de code de cette plage est Utah. Dans le Calvados, en revanche, dans les secteurs de Colville-sur-Mer, Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer, nom de code Omaha, c'est beaucoup plus compliqué pour les troupes qui ont débarqué. Les Américains sont cloués sur cette immense plage.
Merci Thierry Geffretin qui nous fait vivre le débarquement en temps réel. Nous sommes le 6 juin 44 et nous sommes le 6 juin 2019, 75 ans après les cérémonies de commémoration du débarquement.
Et il est 7h30 Mathieu.
Europe 1, en direct d'Arromanche, Mathieu Béliard.
À 7h30, le journal avec Céline Kalman. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les urgences au bord de la crise de nerfs, les conditions de travail, la sécurité, la rémunération. Entre 50 et 80 services sont en grève à travers tout le pays, pour certains depuis presque 3 mois. Écoutez ce témoignage du président de SAMU Urgences de France, François Braun, très inquiet à l'approche de l'été.
Lorsqu'il y a surcharge des services d'urgence, il y a une augmentation de la mortalité, jusqu'à 6% dans un certain nombre d'études, de mortalité supplémentaire. C'est-à-dire de gens qui vont mourir en plus des gens qui devaient mourir. On meurt quand on a une personne âgée qui est restée des heures sur un brancard, qui va faire des complications. On sait déjà qu'il va y avoir des fermetures de services de médecine dans les hôpitaux. C'est simplement pour donner des vacances. Il va y avoir des départs en vacances de nos collègues généralistes qui, comme tous les ans, ne vont pas être coordonnés. Ils vont partir tous en même temps et les gens, dans le pire des cas, vont attendre chez eux et vont s'aggraver. Et sinon, vont dire, on va aller aux urgences et ça va augmenter la saturation. On ne pourra pas passer l'été de façon correcte. Ça veut dire qu'il va y avoir des morts dans les services. Ils ne meurent pas aux urgences, ils meurent pendant l'hospitalisation par le simple fait d'être resté longtemps aux urgences.
François Braun au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. Une manifestation est prévue à Paris cet après-midi, départ de la gare Montparnasse à 13h. Direction le ministère de la Santé, Agnès Buzyn, selon nos confrères du JDD, devrait faire des annonces aujourd'hui au congrès de la Société française de médecine d'urgence. Autour de Valérie Pécresse, de jeter l'éponge, la présidente du conseil régional d'Île-de-France quitte les Républicains, l'a annoncé hier soir dans le journal de France 2, dénonçant un parti cadenassé de l'intérieur dans son organisation, mais aussi dans ses idées. Plusieurs autres élus ont annoncé leur départ du parti. Gérard Collomb, sur la sellette à Lyon, l'ancien ministre de l'Intérieur est soupçonné d'emploi fictif au profit de son ex-compagne. Son domicile ainsi que la mairie de Lyon ont été perquisitionnés. Les précisions de Rémi Pierre pour Europe 1.
N'ayant rien caché ni rien à cacher, je reste à la disposition de la justice. Par ces mots, Gérard Collomb clame donc son innocence après une journée éprouvante pour lui. Une journée débutée dès 6h30 du matin avec une première perquisition à son domicile, puis une seconde en fin de matinée à l'hôtel de ville de Lyon. Les deux policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales seront restés en tout 8 heures dans les locaux de la mairie et se sont notamment attardés au service paye de la ville. Dans leur viseur, les bulletins de salaire et les contrats de travail de Myriam Nouri. L'ex-compagne de Gérard Collomb les enchaîne en effet depuis 1995. A l'époque, l'ex-ministre de l'Intérieur n'était que maire du 9e arrondissement. Depuis et malgré leur séparation, elle a enchaîné les postes dans différents services. Des emplois que ne conteste pas Gérard Collomb. Ce qu'il conteste en revanche dans ce même communiqué, c'est le timing de cette procédure judiciaire juste avant les municipales. La justice n'a jamais rien eu à me reprocher. Les Lyonnais le savent bien, conclut celui qui brigue un quatrième mandat. À Lyon, Rémi Pierre. Europe.
On attendait le mariage, mais la noce est tombée à l'eau. Sans réponse du constructeur français, Fiat Chrysler a retiré dans la nuit sa proposition de fusionner avec Renault. Dans l'actualité également, inquiétude pour Neymar qui s'est foulé la cheville. Il a quitté en boitant un match amical entre le Brésil et le Qatar en préparation de la Copa América. Et puis à Roland-Garros, les 4 derniers quarts de finale reportés à aujourd'hui. Début des rencontres midi. Ils ont été annulés hier en raison de la pluie.
Merci Céline Kalman. Nous sommes de retour à Romanche pour pour les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement. Nous sommes en direct jusqu'à 9h pour cette matinale spéciale. Et justement, les civils dans cette guerre, qu'ont-ils vu du débarquement? Qu'ont-ils ressenti? Ils ont longtemps été les oubliés des commémorations. 100 000 personnes en Normandie ont fui au moment du débarquement. D'autres sont restés. Lors d'Autriche, vous avez rencontré deux Normands qui étaient adolescents à cette époque.
Oui, dès 8h du matin, Michel Pépin, alors âgé de 14 ans, voit dans son village 20 parachutistes qui viennent d'être faits prisonniers. Ils n'avaient pas été largués au bon endroit. Et ce qui le frappe ce jour-là, c'est l'horreur des combats et les avions qui s'écrasent.
C'est des lambeaux de vêtements dans les arbres, c'est des lambeaux de chair partout. C'est dur à supporter, voir ce massacre. Je possédais le gant que j'avais vu tomber de l'avion. Et j'ai ramassé la main du gant. Ça traumatise. Hein. Je ne pourrai jamais assister au liesse après.
Certaines jeunes filles sont réquisitionnées en tant qu'infirmières, comme Colette Marin, 16 ans, qui se retrouve à l'hôpital militaire de Bayeux. Et elle croise tous les jours des soldats canadiens dans les rues.
Il y avait tout le matériel militaire qui était particulier, parce qu'on ne l'avait jamais vu. Leur boîte de conserve auto-chauffante, il y avait des tas de petits objets infiniment plus modernes que ce que nous connaissions. Ça faisait des années qu'on attendait cette délivrance, alors que elle est arrivée.
Mais sortir de la guerre prendra du temps. Il y aura des tickets de rationnement jusqu'en 1949 et il faudra en moyenne 20 ans pour que les villes soient reconstruites.
Merci Laure d'Autriche. Prochain journal à 8h sur Europe 1.
Et vous pouvez réagir en nous envoyant vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Mathieu. On va s'interroger ce matin. 75 ans que nous vivons en paix, en tout cas dans cette partie de l'Europe occidentale. Ça a changé quoi, 75 ans de paix? Ça a changé tout.
Et puis l'économie avec Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu. Alors moi je vais vous parler du Made in France, puisque figurez-vous que l'INSEE a identifié les plus gros acheteurs de Made in France.
Jean-Michel Apathy, Axel de Tarlé, c'est dans un instant. Restez bien sur Europe 1.
Votre matinale spéciale en direct des places du débarquement continue. Il est 7h38. Mathieu Béliard, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et Jean-Michel, nous célébrons aujourd'hui le 75e anniversaire du débarquement. Matinale spéciale donc en direct d'Arromanches, en Normandie. Depuis ce moment historique, l'Europe vit en paix. Cela fait 75 ans et il faut le rappeler, ça n'était jamais arrivé.
Non, jamais arrivé. Personne parmi les générations qui nous ont précédés n'ont connu une paix aussi importante. Et la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce que change la paix par rapport à la guerre. Et la paix, 75 ans de paix, a tout changé. La France s'est construite dans la guerre parce que la France a fait la guerre pendant des siècles aux États allemands, à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, parfois à l'Espagne. Les mentalités françaises se sont construites dans la guerre. L'État a trouvé une place prépondérante dans la société française à cause de la guerre, parce qu'il fallait préparer le conflit, protéger le territoire, protéger la vie des gens. Et puis l'Église a trouvé aussi une place particulière dans la société parce que face aux souffrances et aux douleurs que provoque la guerre, l'Église proposait, promettait la vie éternelle. 75 ans de paix ont mis à bas toute cette construction sociale. D'abord, puisque la perspective de la guerre avait disparu, les gens se sont sérieusement posé la question de savoir ce qu'ils devaient faire de leur vie. Et ça, ça a enclenché dans les têtes l'immense mouvement individualiste qu'a connu l'Europe occidentale depuis 1945. L'Église a perdu la place particulière qu'elle avait dans la société parce que le malheur ayant reculé, pas disparu, elle était moins utile. Et comme en plus la société évoluait et que l'Église a refusé d'accepter ces évolutions, elle s'est coupée de ses fidèles. Et puis reste la question de l'État qui est passionnante à analyser. L'État en temps de paix doit faire quoi ? Puisqu'il ne prépare plus la guerre. L'État doit permettre en temps de paix aux plus imaginatifs, aux plus créatifs d'entre nous, d'innover, de rechercher, d'entreprendre pour produire des richesses. Alors des richesses, pas pour des richesses, mourir riche n'a aucun intérêt, mais puisque nous sommes attachés aux mécanismes de solidarité face à la vieillesse et la maladie, la question du financement de ces mécanismes est évidemment posée. Particulièrement en France, les mentalités sont en retard sur ce point. Nous nous tournons toujours trop, beaucoup trop vers l'État et nous sommes toujours trop méfiants, beaucoup trop vis-à-vis des créateurs de richesses. Nous aimons la paix, nous profitons de la paix, mais sur des aspects essentiels, nous demeurons fixés sur une mentalité issue de la guerre. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons du profond malaise français.
Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé, l'INSEE nous l'apprend aujourd'hui. Qui sont les plus gros consommateurs de Made in France ? Eh bien Axel, ce sont les retraités.
Oui, alors ce débat est très intéressant parce que vous savez, avec les Gilets jaunes, le gouvernement a distribué 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Et l'une des critiques
récurrente, c'est de dire « mais tout ce pouvoir d'achat part à l'étranger parce que nous consommons des produits importés, nous achetons des voitures fabriquées en Allemagne ou encore des vêtements fabriqués en Chine ». Alors, l'INSEE apporte un éclairage très intéressant, c'est vrai, nous dit l'INSEE, mais de façon très limitée. Sur 100 euros de consommation en France, 80 euros restent en France. Bah oui, ce sont tous les services. Quand on va chez le coiffeur, chez le docteur ou au cinéma, l'argent reste dans le pays. Mais effectivement, sur 100 euros de consommation, il y a 20 euros qui partent à l'étranger en produits d'importation. Alors, ce qui est intéressant dans cette note, c'est qu'elle va plus loin. Elle fait même un découpage par tranche d'âge. Et bien, savez-vous qui achète du Made in France? Vous avez donné la réponse. Hein. Qui consomme local et fait tourner l'économie du pays? Effectivement, ce sont les retraités. Alors, on le comprend bien. Les retraités dépensent d'abord pour leur santé. Pas forcément, quand vous avez une infirmière à domicile, c'est du Made in France. Hein. L'argent reste dans le pays. Et puis, pour leur loisir, ce sera plus facilement une sortie au musée ou au restaurant. Alors que les plus jeunes et moins de 30 ans, eux, vont consacrer leur argent en téléphone portable, en vêtements H&M. Et puis pour les vacances, tiens, ce sera une semaine club en Tunisie. Vous voyez, à chaque fois, l'argent sort du pays. Bon alors, une fois qu'on a dit ça, on ne va quand même pas interdire aux jeunes d'acheter des ordinateurs sous prétexte qu'ils sont fabriqués à l'étranger.
Pour voir.
Voilà, oui, ça, puis c'est ce que faisaient les soviétiques, hein, ça s'est mal terminé. Non, pour rééquilibrer les choses et notre commerce extérieur, puisqu'effectivement, nous importons des produits fabriqués ailleurs, hein, des téléphones, des vêtements, eh bien en retour, on le comprend bien, il faut absolument nous-mêmes exporter. Alors exporter là où on est fort, il faut choisir ses secteurs. Donc on pense bien sûr à l'aéronautique, tout ce qui est art de vivre, la pharmacie, ou même, et ça on l'oublie trop souvent, les services comme le traitement de l'eau par exemple, où la France a un savoir-faire mondialement reconnu.
Axel de Tarlet pour le Zoom Echo.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et dans un instant, un témoignage exclusif, celui de Commando Marine. C'est l'élite de l'armée française, je vous le disais. Ils seront Commando Marine aujourd'hui, ils ne le sont pas encore. Major de promotion en 2019, il recevra cet après-midi des mains du président de la République, son fameux béret vert, parole de militaire. J'insiste sur ce point, qui d'habitude ne s'exprime jamais. Vous ne les avez jamais entendus et vous ne les entendrez plus après cela. A tout de suite sur Europe 1.
Excellente matinée sur Europe 1 avec Mathieu Béliard, il est 7h43. Et il est 7h45, votre matinale en direct d'Arromanches continue. Mathieu Béliard, vous êtes avec Charles Villeneuve qui a recueilli le témoignage de deux jeunes commandos marines. Ils viennent de finir leur stage et vont recevoir leur béret vert.
Oui Céline, vous allez entendre des hommes qui ne parlent jamais. L'un a 22 ans, Maël, l'autre Steven, 25 ans. Ils seront aujourd'hui commandos marines. C'est l'élite de l'armée française. La règle pour eux, c'est l'anonymat. Leur visage est peint. Bonjour Charles Villeneuve.
Bonjour.
Avec nous ici en direct pour cette matinale depuis les plages d'Arromanches. Ces jeunes militaires, Charles, on ne les rencontre pas comme ça?
Non, on les rencontre avec l'autorisation de l'amiral, chef d'état-major de la marine, Christophe Prasu, que nous avons appelé dès que nous avons eu l'information, quasiment au lendemain de l'hommage national rendu par le président de la République aux deux membres des commandos marines, qui est la structure élitiste de l'élite de l'armée française. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Il faut savoir que dans la finesse de l'action, on ne trouve pas mieux, même dans l'armée française. Et les deux commandos que vous allez entendre plusieurs fois, Maël, vous l'avez dit, 22 ans, un Breton, et Steven, un Normand, qui a d'ailleurs 3 enfants, qui a 25 ans, eh bien, tous les deux réagissent d'abord à l'hommage national des obsèques des deux commandos Hubert dans la cour des Invalides.
C'est sûr que à travers malheureusement ces deux décès, on a été mis un peu sur le devant de la scène.
Après, je pense que quand on veut faire commando marine, on n'attend pas forcément de reconnaissance derrière par le grand public en fait.
Est-ce que vous avez pris conscience des risques qu'implique justement ce fameux badge de commando marine et de la complexité de la mission, Steven?
Oui, entre guillemets, on le savait déjà bien avant. Ça en rajoute une couche. Mais comme je le dis souvent, c'est un petit élément d'arrêt, mais il faut rester motivé et continuer dans la voie parce qu'on est venu ici pour ça et on continuera coûte que coûte.
Mais vous êtes venu pour ça, mais pour faire quoi exactement?
Eh bien, défendre ma patrie, la France, et également faire de ce pays un pays sûr et pour que ma famille, mes amis puissent y vivre paisiblement et que nous puissions accomplir notre devoir.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même une dimension un peu ingrate, puisqu'on révèle finalement votre nom et votre identité, que mort?
Je dirais non. Quand on s'engage, on sait qu'on a beaucoup d'opérations qui sont secrètes. C'est justement ce qu'on nous apprend au stage commando, c'est l'humilité. et de savoir agir en secret. C'est notre fierté à nous et à personne d'autre.
Alors les commandos marines, on l'a dit, c'est l'élite de l'armée française. Ils ont une formation dure, très physique, notamment dans la cuve. C'est quoi la cuve, Charles ?
Ben, c'est un grand bassin d'eau et à température constante, puisqu'elle se situe vers les 8 degrés. C'est de l'eau froide, donc dans laquelle se trempent en permanence les candidats au béret vert des commandos marines. Le froid, c'est leur compagnon. Il faut savoir que c'est ce qu'ils redoutent le plus en réalité, de par l'enchaînement des épreuves. Moi, je pense que 90% des soldats de l'armée française seraient déroutés, si vous voulez, par cet entraînement. Et lorsque je les ai rencontrés, ils sont d'une... si vous voulez, les feux de la rampe, ce n'est pas leur truc. Et ça leur convient parfaitement. Les discours, les détails, ils vous en donnent très peu. Et je les ai rencontrés tout le temps maquillés. Et quand ils sont mal maquillés, ben, ils retournent dans la cuve. Alors... évidemment, c'est quand même, si vous voulez, pour recevoir ce fameux badge des commandos marines, c'est quand même assez extravagant quand vous rencontrez autant de difficultés.
Au-delà de la cuve, Maëlle et Steven ont aussi connu l'îlot Saint-Michel, c'est-à-dire Charles ?
Ben, c'est un simulacre d'enlèvement où ils vont avoir un avant-goût de ce que peut vivre un otage aux mains de leurs ravisseurs terroristes, dont Maëlle et Steven, qui ont subi l'épreuve, nous parlent.
Donc c'est l'épreuve, on appelle ça l'épreuve du coxage. Donc c'est
une coxage, épreuve... c'est-à-dire vous êtes chopé et pris en otage.
Voilà, affirmatif, c'est pour nous montrer ce qui peut se passer en terrain ennemi, nous montrer qu'il ne faut justement pas se faire attraper.
On peut résumer ça en disant on vous donne un avant-goût des tabassages que vous pouvez subir.
Voilà.
Donc vous êtes tabassé.
Non, ce n'est pas tabassé, c'est une simulation de capture par l'ennemi. Et donc c'est une activité qui est vachement cadrée. Donc on ne peut pas dépasser certaines limites, mais on essaie de... Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas dépasser certaines limites ?
La mort. Non, mais il faut se rendre à l'évidence.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils prennent des coups, quoi.
Ils sont malmenés. Mais voilà, le but, c'est de leur faire toucher du bout de doigt ce que ça pourrait être s'ils se faisaient capturer.
On se souvient des familles présentes aux Invalides, Charles Villeneuve, Maëlle et Steven. Ont-ils un lien particulier, eux, avec le milieu militaire ?
Non, ils n'ont pas été élevés dans ce milieu, ni l'un ni l'autre. Maëlle, par exemple, son père et sa mère sont infirmiers. Et de la même manière, les parents de Steven sont des civils. Donc, si vous voulez, ça leur était totalement étranger quand ils sont arrivés dans cet univers spécifiquement militaire, et notamment ce domaine, celui de l'eau.
Maëlle, je crois, on va l'entendre tout de suite, a mis du temps à en parler à ses parents, contrairement à Steven.
Je l'ai annoncé dès le début, quand j'en ai eu l'envie, mais au moment de m'engager, ma mère a eu beaucoup de mal. Elle a encore beaucoup de mal au jour d'aujourd'hui, parce que du fait du stage commando et de peut-être ma réussite. Et c'est justement le petit point qui nous embête un peu, des fois, de voir un peu une mère qui a du mal à accepter notre choix. Même si elle me dit qu'elle est contente pour moi et fière de mon parcours. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme elle me dit qu'elle a du mal à dormir, c'est un peu difficile pour nous aussi. Mais elle comprend mon envie et mon choix.
Voilà pour cette rencontre exclusive pour Europe 1. Vous pourrez écouter Maëlle et Steven en longueur sur europe1.fr. En ce jour de commémoration du D-Day, on retrouve chez ces jeunes, Charles, cet amour intact de la patrie. Ils sont prêts à tout pour défendre le pays.
Non, il faut savoir, c'est ce qui m'a le plus estomaqué, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, que ces deux jeunes gens ont compris très vite qu'il n'y a rien de pire que de penser au pire quand on choisit de servir son pays, surtout dans les commandos marines. Je voudrais juste dire un mot, c'est qu'ils étaient 140 dans la promotion au départ, il n'y a que 14 qui vont recevoir leur béret vert cet après-midi, et notamment, non seulement par les mains du président de la République en ce qui concerne le major, mais l'un d'entre eux va recevoir son béret vert et son badge de commando marine par le président du MEDEF, Roux de Bézieux, qui a été...
Le président du MEDEF ?
Oui, qui a été commando marine dans le commando Jobert et Trépel. Ça vous fait rire ?
Oui, ça me surprend, Charles Villeneuve.
Ben oui, mais vous savez, les commandos marines, ils se logent partout. Hein.
Toujours très bien informé, Charles Villeneuve. Toujours très bien informé. Merci aux militaires qui ont permis cet entretien exceptionnel que vous retrouverez en longueur sur europe1.fr. Et merci à vous, Charles Villeneuve.
Et vous pouvez continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre sur Europe 1, les cérémonies officielles du débarquement qui démarrent dans une trentaine de minutes à Vers-sur-Mer. Le public est déjà là, les chefs d'État arrivent, nous y serons en direct dès le début du journal de 8h. Et à 8h15, un témoignage très fort, celui de Marie Scott, elle a 93 ans. Il y a 75 ans, heure pour heure, c'est elle qui transmettait des messages aux soldats qui débarquaient sur les plages de Normandie. Vous allez l'entendre sur Europe 1.
Et on vous retrouve dans un instant, Mathieu Béliard. Il est 7h53. Il est 7h55. Votre matinale spéciale en direct d'Arromanches pour le 75e anniversaire du débarquement continue. Avec vous sur place, Mathieu Béliard. Et ici à Paris en studio, Jean-Philippe Ballas pour sa petite histoire du jour.
Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous savez quoi ? Ce matin, on ferme la porte, on allume le poste de radio. Et on écoute.
Parce que son nom ne vous dira peut-être rien, mais sa voix, cette voix, elle fait partie de l'histoire.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
Ce phrasé si particulier, ce timbre reconnaissable entre mille, sont ceux d'un gamin d'une vingtaine d'années à l'époque. Il s'appelle Frank Bauer, jeune Français parti à Londres, passionné de jazz. Avec d'autres, il participe à ce programme diffusé le soir par la BBC et voulu par De Gaulle. C'est la France libre, oui, qui vous parle sur les ondes avec ses fameux messages personnels pour la résistance. Messages codés, énigmatiques d'ailleurs. Frank Bauer lui-même ne les comprend pas, mais il les lit, les répète avec application toujours. Des bouts de phrases griffonnés sur des bouts de papier qu'on lui pose là sur la table, près du micro.
Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois.
Voilà ces messages personnels, ces histoires de manchots. Seuls quelques résistants dans quelques maquis en saisissent la signification entre deux brouillages des Allemands. Aujourd'hui, Frank Bauer n'est plus là. Il nous a quittés l'an dernier, quasi centenaire. Mais sa voix et celle de ses camarades resteront à jamais symbole d'un lien, d'un espoir qui résonnait à l'époque dans 5 millions de postes de radio français.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées.
Cette voix, on la reconnaît, c'est celle de Gilbert Bécaud, évidemment. Il fallait rendre hommage à Frank Bauer, sa voix, nous la connaissons tous, son rôle, il est majeur. Merci Jean-Philippe Ballas.
À suivre, Mathieu, le journal de David Doucan, mais tout de suite, une voix qu'on connaît bien ici, hein, c'est Laurent Cabrol pour la météo.
Mais qui a menti, Laurent, il fait toujours extrêmement beau ici à Arromanches.
Non, mais il fera beau encore pendant quelques heures, rassurez-vous. Non, nous sommes, c'est vrai, dans un répit assez spectaculaire, comme celui de 44, et je vous dirai tout à l'heure, pour l'homme, parce qu'il y a aussi un homme à qui nous devons ces prévisions extraordinaires, en 44, ce répit qu'il a lui seul décelé, c'est un Écossais, je vous en parlerai de lui. Alors en attendant, vous dire qu'aujourd'hui, bien, ce répit, nous allons le vivre avec, sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique et l'Anjou, un temps relativement agréable ce matin, mais très vite les éclaircies vont disparaître pour laisser place aux averses. Sur le Poitou-Charentes, la Basse-Normandie, là où nous sommes, la Touraine, ce sont des ondées qui vont apparaître, même si à Romanche il fait beau, il ne fera pas beau toute la journée, malheureusement, dans l'après-midi, les éclaircies vont disparaître aussi et laisser passer quand même quelques averses. Les meilleures chances de soleil, aujourd'hui, dans tout le sud-ouest, le Massif central, le centre, la Franche-Comté, Rhône-Alpes. Sur Paris, ce ne soit pas trop mal, mais enfin, quelques gouttes sont quand même à prévoir. Les températures, aujourd'hui maximales, sont en hausse. 18 à Romanche et à Caen, 19 à Lille, à Strasbourg, Épinal, 20 degrés à Paris, 21 à Dijon, 22 à Bordeaux, 23 à Lyon, 24 à Marseille. Et le jour du débarquement, il a fait 16 degrés, donc sur les plages que nous célébrons aujourd'hui. Il a fait 16 degrés dans la journée et à peine 7, 8, 9 degrés dans le petit matin au moment où les soldats sont arrivés sur les plages.
Merci Laurent Cabrol et je vous parlerai justement de cette plage où nous avons installé le studio de la matinale d'Europe 1 ce matin. Dans quelques instants, la plage d'Arromanches pour une matinale spéciale que vous vivez avec nous. Matinale spéciale D-Day, le 6 juin 2019, les 75 ans, jour pour jour du débarquement des Alliés ici.
Europe 1 vous fait revivre le débarquement. Thierry Geffretin.
Nous sommes le 6 juin 1944, il est 7h59. Cette fois, je peux vous le confirmer, un débarquement de grande envergure a bel et bien commencé sur des plages des départements de la Manche et du Calvados, en dépit d'une météo peu favorable. Des troupes ont été lancées à l'assaut de 5 secteurs. Vous avez bien entendu, 5 secteurs. C'est donc 3 de plus qu'il y a une demi-heure. Après les Américains qui ont débarqué à partir de 6h30, non loin de l'estuaire de la Vire, ce sont des troupes anglaises et canadiennes qui tentent depuis 7h30 d'établir une tête de pont entre Port-en-Bessin et Ouistreham. Et je peux même vous annoncer sait que des Français participent à l'opération dans le secteur de Ouistreham. Thierry Geffrotin, qui tout au long de cette matinale spéciale nous permet de revivre ce débarquement minute par minute en temps réel, comme au 6 juin 1944.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi matin. Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale spéciale en direct des places du débarquement continue jusqu'à 9h avec vous Mathieu Béliard.
Oui Céline, nous sommes à Romanches, en face de nous, Gold et Juno. C'est ainsi que les Alliés avaient renommé ces plages il y a 75 ans. Le débarquement, cette bataille qui a changé le cours du monde, le cours de l'histoire. Voilà ce que les chefs d'État vont commémorer aujourd'hui avec plus de 500 vétérans. Et cela commence dans une demi-heure à Vers-sur-Mer où nous rejoignons l'Ordre d'Autriche. Emmanuel Macron et Theresa May vont poser la première pierre d'un mémorial en l'honneur des soldats britanniques. Et cela peut surprendre, mais cela manquait. Il aura fallu attendre 2019 pour cela alors.
Oui, les Américains et les Canadiens ont depuis longtemps leur mémorial, mais pas les Anglais. C'est ici, à Vers-sur-Mer, qu'ils ont notamment débarqué. Mais la ville est jusqu'à aujourd'hui un peu restée dans l'ombre. 21 000 soldats britanniques sont pourtant morts pendant la bataille de Normandie. Face à la mer, sur ce futur mémorial aux panneaux gigantesques, seront gravés tous les noms de ceux qui ont sacrifié leur vie. Les vétérans ont aujourd'hui presque tous plus de 95 ans. Et pour le public aussi, ce 75e anniversaire du débarquement a une saveur toute particulière. Ils savent que c'est probablement la dernière grande occasion de voir ces vétérans.
C'est impressionnant de voir les gens vont très souvent vers eux et ils sont très réceptifs à ça et c'est très émouvant.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont très sympathiques, on arrive à les approcher. Ils sont contents de revenir en France, ça se voit quoi.
Ils vont dire on est encore là, malgré les grands amis qui sont disparus, ça reste gravé dans le cœur.
Étrange situation tout de même, ce mémorial britannique sort aujourd'hui de terre au moment où le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce matin la dernière cérémonie officielle de la première ministre britannique Theresa May qui démissionnera demain.
Laure d'Autriche pour Europe 1. Merci Laure. Alors je vous le disais, nous sommes installés face aux plages d'Arromanches. Il faut se rendre compte de l'extrême violence de ce débarquement. Les nazis ne sont pas tombés sans combattre. Écoutez bien ce témoignage d'un vétéran américain. Il était là, sur cette plage, il y a 75 ans.
Je me demande si ce sable renferme encore le sang de nos soldats. C'est très émouvant. Je ressens quelque chose. Et aujourd'hui, je me tiens debout, alors qu'à l'époque, je rampais. L'eau était rouge, et il y avait des corps qui flottaient partout, des corps explosés.
Extrait d'un documentaire diffusé cette semaine sur France 2. Ces commémorations, nous les vivons ensemble en direct sur Europe 1. Elles ont commencé ici, des soldats, des jeeps, des bateaux sur cette baie dont la vue est coupée à quelques dizaines de mètres de la plage par d'immenses blocs de béton. L'amiral Lord Louis Mountbatten disait « Puisque nous ne disposerons pas des ports, nous apporterons les nôtres ». Ces ports, ce sont des ports artificiels flottants qu'on appelait les Mulberries, 500 000 tonnes de béton apporté ici depuis la Grande-Bretagne, fabriqué en Grande-Bretagne où ils étaient coulés dans les fleuves anglais pour les dissimuler de l'aviation allemande. On a aussi coulé de vieux bateaux pour arrêter les vagues ici. Les blocs de béton transportés vides et remplis d'eau à l'arrivée. Après 75 ans, ils sont toujours là, des vestiges, des témoins, une véritable part aujourd'hui du panorama de la Normandie. Les commémorations vont être nombreuses toute la journée. 6 juin du souvenir, mais aussi 6 juin de la diplomatie. Jean-Rémy Baudeau, vous allez suivre Emmanuel Macron toute la journée. Et bien sûr, ce que l'on va observer à la loupe, ce sont les échanges avec Donald Trump, tant la relation s'est tendue ces derniers mois.
Et bien comme dans chaque couple, il y a des hauts et des bas, mais l'Élysée semble bien décidée à profiter de cette journée du 6 juin pour rappeler à Donald Trump l'importance de la relation entre nos deux pays. Les États-Unis, un ami indéfectible depuis 250 ans, confie un proche du président, français et américain se retrouvent toujours pour défendre la démocratie libérale, rajoute-t-il. Cette relation, c'est un savant dosage de chaleur, de respect réciproque et de franchise, explique sobrement l'Élysée, qui semble oublier les tweets rageurs du président américain et ses positions parfois excessives. L'entourage du président Macron le reconnaît, il y a des points de désaccord avec Donald Trump, ils sont d'ailleurs nombreux, sur sa politique commerciale, sur le Moyen-Orient, le climat ou le multilatéralisme. Même avec chaleur, respect et franchise, lors du déjeuner aujourd'hui, Emmanuel Macron a peu de chances de faire changer d'avis Donald Trump, qui remettent en cause systématiquement toutes les instances internationales créées justement après le débarquement et la Deuxième Guerre mondiale.
Jean-Rémy Baudot du service politique de la rédaction d'Europe 1. Merci Jean-Rémy. Je me tourne maintenant vers l'un des meilleurs connaisseurs du débarquement chez nous à Europe 1. On retrouve Thierry Geffrotin à nouveau. Vous allez un petit peu, Thierry, remettre les points sur les i. Il y a l'image d'Épinal, ça c'est celle d'Hollywood, avec le fameux film Le jour le plus long. Sauf que Thierry, il y a la fiction hollywoodienne et la réalité historique.
Eh oui, et pour commencer...
Les sanglots longs des violons de l'automne.
Le maire de Paul Verlaine aurait annoncé l'imminence du débarquement. Alors en fait, il s'agit d'un message parmi beaucoup d'autres adressé à la résistance. D'autres messages comme « Il fait chaud à Suez » ou « Les dés sont sur le tapis » ont été diffusés par Radio Londres à partir du 1er juin. Autre légende, Sainte-Mère-Église dans la Manche, un parachutiste accroché au clocher de l'église. En fait, il n'y a pas eu un, mais deux parachutistes, sauf que John Steele et Ken Russell n'ont rien vu des combats sur la place, ils étaient accrochés de l'autre côté du clocher. Enfin, un joueur de cornemuse écossais traversant le pont de Bénouville en jouant de son instrument sous la mitraille. Alors, il est vrai que le général de brigade Lord Lovat ne partait jamais au combat sans son Piper, mais pas de cornemuse à ce moment précis du jour J. Et pourtant, Bill Millin était prêt à jouer, mais une voix s'est élevée pour l'inviter à la prudence et selon certains récits, on lui aurait même dit « Ah non !» C'est pas le moment.
Merci Thierry Geffrotin.
Europe 1.
À suivre, le reste de l'actualité à Paris avec David Doucan sur Europe 1. Le psychodrame qui continue à droite. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle quitte les Républicains. À tout de suite.
Il est 8h08. Votre matinale spéciale commémoration du débarquement sur Europe 1 continue avec Mathieu Béliard en direct d'Arromanches, en Normandie.
Absolument Céline. Et le reste de l'actualité, c'est avec David Doucan à Paris. David, la droite française s'enfonce encore un peu plus dans la crise.
Eh oui, puisque Valérie Pécresse claque la porte des Républicains. La présidente de la région Île-de-France l'a annoncé hier aux 20h de France 2. Elle se justifie en expliquant que le parti est cadenassé de l'intérieur. C'est peu dire que les élus qui restent, eux, fidèles aux Républicains ont très mal pris cette décision. Aurélie Herbemont.
On nous compare à Game of Thrones. Je trouve que c'est plutôt Dallas, ironise un député. La droite et son univers impitoyable. Christian Jacob trouve ça incompréhensible et il n'est pas le seul. C'est grotesque, torpille un sarkozyste. Un jour, elle dit qu'à la place de Wauquiez, elle démissionnerait, il démissionne et elle part. Des parlementaires pro-Pécresse vont aussi rendre leurs cartes. L'un d'eux confie « Il me faudra un gilet pare-balles car je n'ai pas prévenu mes militants ». Commentaire laconique d'un dirigeant, c'est surréaliste. Un autre lâche, c'était le moment de prendre le pouvoir chez LR. Mais Valérie Pécresse dénonce un parti cadenassé. Selon un de ses amis, à cause de Wauquiez, il ne reste que des militants ultra. Impossible d'inverser la vapeur. C'est parce que personne ne pense à elle pour reprendre le parti, persifle un ténor. Valérie Pécresse quitte LR pour refonder la droite par l'extérieur. Et certains redoutent que le feuilleton ne soit pas fini.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le projet de rapprochement entre Fiat et Renault aura fait long feu. Fiat a retiré cette nuit sa proposition de fusion en cause l'État actionnaire français qui avait demandé un peu de temps pour convaincre Nissan de voter en faveur de l'alliance. Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler a perdu patience et précise dans un communiqué que les conditions politiques n'étaient actuellement pas réunies en France. Voilà maintenant près de 3 mois que les personnels soignants des urgences tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs dizaines d'établissements en grève à travers tout le pays. Une manifestation nationale organisée cet après-midi à Paris. Les médecins, les infirmières dénoncent le manque de moyens qui entraîne une baisse de la qualité des soins, mais aussi l'épuisement des équipes. Illustration, à l'hôpital de Lens, dans le Pas-de-Calais, 11 démissions de médecins urgentistes depuis le début de l'année. Reportage Lionel Gougelot.
Des urgences saturées, des patients entassés sur des brancards dans les couloirs et des médecins démunis. Après 10 ans de dévouement, Élodie Desnin a claqué la porte de son service il y a 3 mois. Ça n'était plus la médecine qu'elle voulait pratiquer.
À partir du moment où on commence à mal vivre son travail, à souffrir en allant travailler parce qu'on ne peut pas faire son travail correctement, je pense qu'il est temps d'arrêter ou alors de prendre un peu de recul. On a besoin de médecins, on a besoin d'aides-soignants, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de matériel. Grosso modo, on a besoin de moyens et ce qu'on ne veut pas nous donner. Je ne cautionnerai pas un système qui maltraite les patients.
Depuis, 10 autres médecins sur les 18 des urgences de l'hôpital de Lens lui ont emboîté le pas, le signe d'une profonde détresse de l'ensemble des personnels, selon Élodie.
On était une équipe très soudée à surmonter les épreuves. Quand je suis partie, ça m'a fait énormément de peine, j'ai pleuré. Un peu une deuxième famille. Hein. Ça fait des années qu'on se bat, hein, qu'on essaye de mettre en lumière les dysfonctionnements hospitaliers. Malheureusement, c'est un peu une sorte de renoncement général, mais c'est parce qu'aussi on s'aperçoit que malgré tout ce qu'on a pu faire ces dernières années, il n'y a rien qui a changé.
Le docteur Desnin ne retournera pas en milieu hospitalier. Elle a décidé de se reconvertir dans la prévention, notamment sur les questions de souffrance. souffrance au travail.
Reportage signé Lionel Gougelot. Et j'ajoute qu'Agnès Buzyn se rendra ce matin au congrès des urgentistes au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Les médecins attendent des annonces de la part de la ministre de la Santé. Un mot de sport pour conclure avec cette information qui nous vient du Brésil. Décidément, Neymar est une star fragile. Il s'est blessé cette nuit lors d'un match amical face au Qatar avec la sélection brésilienne. Touché à une cheville, il est forfait, figurez-vous. Forfait pour la Copa América qui démarre pourtant dans 10 jours au Brésil. Et puis un petit mot de Roland-Garros. Tous les matchs avaient été annulés hier en raison de la pluie. Mais le sport reprend aujourd'hui avec les 4 quarts de finale, dont le choc Novak Djokovic, Alexander Zverev. Attention, premiers échanges dès midi et non 14h comme d'habitude.
Merci beaucoup David Doucan.
Europe 1, matinale spéciale débarquement. Mathieu Béliard.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Mathieu.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Mathieu.
Churchill, Roosevelt, De Gaulle. Aujourd'hui, Theresa May, Donald Trump, Emmanuel Macron. Ce matin, Vincent, c'est tentant de se dire que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants.
Oui, Mathieu, mais il y a la reine avec son chapeau à plumes rose bonbon. Elle arrivait hier à peine à l'épaule de ses voisins, mais elle a connu tous ces géants. Elisabeth II a vécu la guerre. Le débarquement, c'est la 75e fois qu'elle le commémore. Ce n'est pas le jour le plus long, c'est un jour sans fin. Hier, elle a cité son père, le roi George VI, et son fils sagement, Charles, l'écoutait. C'est le génie de la monarchie, ce lien entre les générations. L'histoire en chair et en os, au présent. Ça explique sans doute que les Brexiteurs s'imaginent encore en train de tenir tête à l'Europe allemande et préfèrent le grand large continent, le Donald à la chancelière. Même Theresa May, qui n'a pourtant aucune influence sur la Maison-Blanche, contrairement à Churchill. Alors, il faut lui reconnaître des points communs avec son illustre prédécesseur, le flegme, l'obstination, le courage. Comme lui, elle est devenue Premier ministre par défaut après une catastrophe, juin 40 pour l'un, le Brexit pour l'autre, et tous les deux sont sacrifiés par un parti conservateur abandonné par ses électeurs. La grande différence quand même, c'est qu'elle quitte le pouvoir sans avoir rien réglé, alors qu'il a attendu d'avoir gagné la guerre pour se faire virer.
Ok pour la comparaison entre Theresa May et Winston Churchill. Comment est-ce qu'on compare Donald Trump à Franklin Roosevelt ?
Oui, c'est un peu plus difficile, mais on peut remarquer quand même que tous les deux polarisent la vie politique, qu'ils font des prodiges économiques et qu'ils ont une faiblesse coupable pour le Kremlin. Et surtout, qu'ils gouvernent un empire qui continue de dominer le monde par la finance, par ses tribunaux, par le contrôle d'Internet, par ses outils de renseignement. L'Amérique reste en guerre 75 ans après. Et elle règne sur les mers. Le D-Day, il y avait 5000 navires sur la Manche. Aujourd'hui encore, la Navy pèse plus lourd que les 6 flottes de guerre les plus puissantes au monde. En fait, le plus délicat serait peut-être de comparer Charles de Gaulle et Emmanuel Macron. Il n'y a pas de temps ce matin, mais on peut relever qu'il n'ira pas tout à l'heure à la cérémonie internationale à Juno Beach et rappeler que le général a toujours refusé de commémorer le débarquement auquel il n'avait pas été associé.
Vincent Hervouet sur Europe 1 pour l'édito international.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Votre matinale spéciale en direct des plages du débarquement qui continue ici en direct d'Arromanches, 75 ans après le D-Day. Dans un instant, les souvenirs d'une femme anglaise de 93 ans. Elle s'appelle Mary Scott. Il y a pile 75 ans, elle n'était pas ici en Normandie. C'est elle qui transmettait les ordres aux troupes qui débarquaient sur les plages normandes depuis Portsmouth. A tout de suite. Écoutez son témoignage sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1, 7h-9h, matinale spéciale débarquement.
Et il est 8h15, votre matinale en direct d'Arromanches continue avec vous Mathieu Béliard. À vos côtés Mathieu, une femme de 93 ans, elle est anglaise, elle se nomme Mary Scott et hier elle a reçu la Légion d'honneur pour son rôle pendant le débarquement.
Exactement Céline, bonjour Mary Scott.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous vous rappelez de ce 6 juin 1944, jour pour jour, heure pour heure, il y a 75 ans?
Well... I was deep in a tunnel that had been.
Eh bien, j'étais dans un tunnel creusé dans la falaise qui donne sur le port de Portsmouth.
Communication headquarters.
C'était le quartier général des communications pour l'opération
Overlord.
Il y avait une forme d'excitation. Nous savions que c'était une opération de très grande envergure. Mais nous ne savions pas à quel point c'était vital. J'étais opératrice radio VHF. La VHF n'en était qu'à ses débuts, alors c'était un système assez rudimentaire. Mais les hommes qui recevaient ces messages étaient les soldats qui débarquaient sur les plages de Normandie. Quand ils nous répondaient, on entendait très très distinctement les combats derrière eux, les bruits des mitrailleuses, les hommes qui criaient. C'était vraiment l'enfer. La confusion était totale. Ça devait être terrifiant pour eux, car ça l'était pour moi. J'étais quasiment avec eux. Sauf que moi, j'étais bien en sécurité dans mon tunnel, et pas eux.
Vous aviez 17 ans.
17 ans, oui.
C'est la première fois que vous entendiez ce genre de son, ce genre de bruit ?
Non, pas vraiment, parce que j'avais vécu les bombardements allemands à Londres. J'avais 13 ans quand la guerre a commencé. Mes parents n'ont pas voulu fuir pour que ma sœur et moi, on ne manque pas l'école. Ça faisait peur, les bombardements. On voyait le ciel devenir rouge. Quand le port de Londres a été bombardé, la moitié du ciel de Londres était écarlate.
Quand vous avez eu 17 ans, donc, vous vous êtes engagé aux communications. Mais les messages que vous receviez étaient codés. Comment c'était de transmettre sans comprendre ?
En fait, c'était devenu pour moi un travail automatique, un peu banal. Sauf que les sons que j'entendais en retour, eux, ils n'avaient rien de banal, ils étaient terrifiants.
Le jour du débarquement, combien d'heures est-ce que vous avez travaillé, Marie Scott ?
Je ne sais plus vraiment, 8 ou 9 heures d'affilée, je pense. Mais on est resté dans ce tunnel pendant 48 heures avant d'obtenir enfin le droit de sortir.
Comment avez-vous su que l'opération était un succès ?
Oh, je l'ai appris longtemps après. Je crois que je l'ai su quand les troupes sont arrivées à Caen, un mois plus tard. Et puis, 3 mois après le débarquement, notre roi, George VI, est descendu pour inspecter le tunnel et voir ce que nous avions traversé pendant l'opération Overlord. Il nous a tous passés en revue. Et à la fin, il nous a demandé de nous approcher de lui, ce qu'on a fait, et il nous a remerciés un à un pour notre travail. Et c'est là qu'on a compris que notre travail avait largement participé au succès de l'opération.
Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de raconter votre histoire, Marie Scott ?
Je ne sais pas.
Vous avez longtemps gardé le silence ?
Oui, en effet. Mais beaucoup de soldats sont restés silencieux alors qu'ils avaient davantage d'histoires héroïques à raconter. Je pense qu'ils considéraient qu'ils n'avaient fait que leur travail. Et moi aussi, en vérité, j'ai fait le travail qui devait être fait parce que c'était vital pour les soldats quand vous étiez dans les communications.
Hier, vous avez été décorée, Marie Scott, de la Légion d'honneur. Que ressentez-vous ?
Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'émotions mêlées. Je suis immensément fière, immensément. Pas seulement pour moi, mais pour tous les gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait leur devoir en ce jour mémorable de 1944. Vous savez, je suis un peu confuse de recevoir cette médaille, car j'étais la plus jeune, je suis probablement l'une des dernières survivantes. Mais tous ceux qui ont disparu ont fait un travail remarquable.
Marie Scott, après ce vécu qui est le vôtre, quel est votre message pour les plus jeunes ?
Fight hard for peace. Battez-vous pour la paix. Parce que des centaines de milliers de personnes sont mortes pour les 75 années de paix que nous venons de vivre. C'est un lieu commun de dire ça, on prend ça pour acquis, mais on ne devrait pas. La paix, ça doit se gagner.
Marie Scott, merci beaucoup.
My pleasure.
Merci d'avoir accepté de témoigner pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et ici, vous savez, on rencontre beaucoup de ces vétérans du débarquement. Je voudrais juste vous préciser que par rapport à ces vétérans que vous avez peut-être déjà vus en interview à la télévision ou entendus à la radio, quand on les croise, on ne dit rien, on se tient droit.
et on les respecte. Ils sont là, ils sont impressionnants, parfois en fauteuil roulant, parfois chancelant avec une canne. Mais c'est impressionnant de les rencontrer ici, sur ces cérémonies du débarquement. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, la météo, Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info à 8h30. C'est avec Hélène Zélani. Et puis 8h35, la revue de presse de David Abiker. A tout de suite.
Il est 8h26, matinale spéciale sur Europe 1 depuis les plages du débarquement. Avec vous, Mathieu Béliard, à suivre l'essentiel de l'actualité. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Oui, mais avant de donner la météo du jour, évidemment, Laurent Cabrol, on va peut-être rappeler d'un mot que la météo a eu un rôle majeur dans ce débarquement.
Les conditions étaient drastiques. Il fallait que ce soit en pleine, qu'il y ait la pleine lune, peu de nuages, le vent faible, peu de vagues, marée basse au lever du soleil pour voir les obstacles. Vous imaginez qu'aucune de ces conditions était réunie. On était en pleine perturbation, on n'y voyait rien, il n'était pas question de débarquer. Et le 5, on annule le débarquement. Or, il y a un monsieur qui intervient, qui est un homme, qui est un Écossais, un homme génial, qui s'appelle James Tagg, qui a, lui, décelé entre deux perturbations un moment de répit. Ils ont réussi, les Alliés, à dissimuler cela aux Allemands, qui eux-mêmes croyaient encore que la perturbation passerait. Or, la perturbation est passée beaucoup plus vite, et c'est dans ce répit de quelques heures que James Tagg a réussi à convaincre les Alliés en leur disant « on y va ». Et c'est à ce moment-là que le débarquement a eu lieu. Ils ont décidé de le faire le 6 au matin. Sinon, c'était quasiment impossible parce que les autres conditions n'étaient pas réunies. Donc vous voyez que la météo a joué un rôle essentiel et on la doit aussi, on doit aussi ce rôle à un homme exceptionnel.
La météo du 6 juin 44, la météo du 6 juin 2019 à présent, Laurent.
C'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de génie puisque maintenant on a des satellites, on a des ordinateurs, mais on a quand même des gens très compétents à la fois.
Vous savez, beaucoup de gens ont besoin de Laurent Cabrol le matin.
Oui. Mais donc tous ces gens qui concoctent les météos pour nous, que ce soit les Français avec Météo France, les Anglais, les Allemands. D'ailleurs, les meilleures météos sont celles qui ont fait la guerre. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui avaient à la fois la marine et l'aviation et qui ont fait des progrès considérables en matière de météo. Fermons la parenthèse. Aujourd'hui, ce sera un temps d'alternance, nuages éclaircis, averses, des averses de plus en plus nombreuses sur la Bretagne, le Cotentin et la Loire Atlantique, et des éclaircies de plus en plus belles sur le sud-ouest, le Massif central, la Franche-Comté et Rhône-Alpes. À Paris, quelques ondées, comme sur les plages du débarquement, peut-être une ou deux ondées, surtout cet après-midi. Température maximale entre 19 et 24.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Matinale spéciale ici sur Europe 1 en direct des plages d'Arromanche en Normandie. On est ensemble jusqu'à 9h.
Europe 1 vous fait revivre le débarquement. Thierry Geffretin.
Nous sommes le 6 juin 1944. Il est 8h29. Je voudrais tout de suite vous donner des nouvelles qui ne sont pas bonnes, d'ailleurs, de l'un des secteurs où ont débarqué les troupes américaines. C'est la confusion totale sur les plages de Vierville, de Saint-Laurent et de Colville-sur-Mer, nom de code Omaha. Les Allemands font mieux que résister, ils sont en passe de rejeter à la mer les troupes qui ont débarqué. Je viens par ailleurs d'apprendre que des Rangers tentent d'escalader à l'aide de cordes et d'échelles une falaise connue sous le nom de Pointe du Hoc. Là aussi, les combats sont très violents. D'autres plages dans le Calvados sont concernées par ce débarquement de très très grande envergure. Pour vous faire une idée, certains témoins disent que la mer est couverte de bateaux.
Merci Thierry Geffretin qui nous fait vivre toute cette matinée, hein, pas seulement jusqu'à 9h mais jusqu'à 13h, heure par heure, le débarquement comme si vous y étiez, comme en temps réel, comme le 6 juin 1944.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Jeudi 6 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Hélène Zélani.
Et il est 9h30 ce fameux 6 juin 44. Quant à Londres, le général Eisenhower peut annoncer à la BBC le débarquement des troupes alliées en Normandie.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Les commémorations doivent commencer en ce moment même à Vers-sur-Mer, en présence de Theresa May pour la pose de la première pierre d'un mémorial britannique. Tout à l'heure à 11h, l'une des images de la journée, ce sera au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Le couple Macron retrouvera le couple Trump. Fiat Chrysler retire son offre de fusion avec Renault. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire prend acte et assure que l'État français a travaillé de manière constructive sur ce projet. Manifestation nationale des personnels des urgences à la mi-journée à Paris. La grève dure depuis maintenant plus de 3 mois. Comment en est-on arrivé là, Mélanie Gomez ?
Pour expliquer le niveau de tension actuel dans les services d'urgence, il n'y aurait pas un seul fautif. Selon le syndicat SAMU Urgences de France, c'est en fait la faute à tout le monde. D'abord, affirme son président, aux urgentistes eux-mêmes qui ont longtemps cru qu'ils étaient des surhommes. La faute aussi, dit-il, à certains généralistes qui partent en vacances à Noël ou pendant l'été en laissant sur leur répondeur l'adresse des urgences. Et puis, la faute aux patients, qui débarquent trop souvent aux urgences pour de mauvaises raisons. Environ la moitié de ceux qui s'y présentent pourraient en fait être soignés autrement, par un généraliste ou dans un autre service, en attendant quelques jours de plus. Enfin, ces professionnels pointent évidemment du doigt les autorités de santé. Selon eux, il faut tout revoir pour que les urgences ne soient plus le supermarché de la médecine. Mais déjà, pour passer l'été, ils réclament des mesures immédiates, comme l'interdiction pour les hôpitaux de fermer des lits dans d'autres services. Sinon, ils le disent, aux urgences en juillet-août, c'est sûr, il y aura des morts.
Et selon le JDD, la ministre de la Santé Agnès Buzyn pourrait faire des annonces aujourd'hui au congrès des urgentistes. Valérie Pécresse claque la porte des Républicains. La présidente de la région Île-de-France l'a annoncé hier soir dans le journal de 20h de France 2. Et puis Neymar forfait pour la Copa América en raison de la gravité de sa blessure. La star brésilienne du PSG s'est foulée la cheville pendant le match amical Brésil-Qatar à Brasilia.
Merci beaucoup Hélène Zelani.
Europe 1, 7h-9h, matinale spéciale débarquement.
Il est 8h32, Mathieu Béliard, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, une date, un mot, 6 juin et D-Day.
À la une de Ouest-France d'abord, 6 juin, l'hommage et le souvenir. À la une du Figaro, 6 juin 44, le matin de la liberté. D-Day, le jour de gloire des vétérans, choisit les dernières nouvelles d'Alsace. Mais c'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait le mieux résonner le passé et le présent. Avec D-Day, comment on se retrouve? Et le quotidien d'a sortir ce titre aigrefin d'une photo de Macron et Trump aux cérémonies d'hier. Macron regarde par ici, Trump, la mine sévère, regarde par là. Et pour cause, Trump tourne le dos à l'Europe, analyse le monde, histoire de rappeler que les alliés d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. On parle aussi du débarquement en une de l'opinion qui évoque la tentation du débarquement de Mélenchon par son opposition interne après son score faiblard aux européennes. Et puis bien sûr, il y a les divisions de la droite qui n'ont rien à voir avec les divisions aéroportées d'hier et Valérie Pécresse qui ne rejoint pas le monde libre, juste son petit mouvement libre. Ce matin dans la presse, les batailles d'hier ne sont pas les guéguerres d'aujourd'hui.
David, la presse du D-Day, c'est aussi la presse qui a couvert le débarquement à l'époque.
Qu'ont dit les journaux au lendemain du débarquement? Comment les correspondants de guerre l'ont-ils couvert à l'époque? Courrier international réunit quelques extraits des journaux parus au lendemain du 6 juin 44. En Grande-Bretagne, dès le 7 juin 44, le Manchester Guardian titrait avec des accents churchilliens « Nous sommes l'histoire ». Et il publiait les dernières heures du grand événement par son correspondant parachuté avec la 6e division aéroportée. Vu d'Union soviétique, le quotidien Komsomolskaya Pravda, l'engagement en Europe est lancé. Alors que dans ses colonnes, un général soviétique prend soin de préciser que le débarquement allié est un second front. Le second, après le front de l'Est évidemment. Vu des États-Unis, c'est évidemment l'enthousiasme. C'est un vrai miracle que nous ayons réussi, écrit Ernie Pyle, d'Associated Press. Un déluge de feu, des pièges pour les bateaux, des araignées de mer sur la plage. Des milliers de soldats américains cloués au sol qui progressent mètre par mètre. Mais vu d'Allemagne, le journal officiel de propagande ne s'avoue pas vaincu. Nos défenses n'ont pas été surprises, tente de se persuader la presse nazie.
Et enfin le Figaro qui nous raconte, David, l'histoire d'un château normand transformé en salle de presse.
La scène se passe en Normandie, au château de Vouilly, à quelques kilomètres de la plage d'Omaha Beach. On frappe à la porte, un matin de juin 44, la châtelaine va ouvrir, un officier américain. L'opération Overlord se profile, annonce le militaire à Alexandrine, médusée. Et c'est ici, chez elle, que s'installent les correspondants de guerre. C'est au château de Vouilly qu'ils établiront leur salle de presse. Ils seront 150 et parmi eux, les plumes illustres. Ernest Hemingway, Robert Capa et Ernie Pyle, encore lui. Et c'est d'une des salles du château réquisitionnées, réaménagées, que les reporters vont écrire, raconter au monde entier la libération de la France. Ils n'ont pas le droit de dire d'où ils écrivent. Chaque article commencera par « de quelque part en France ». Et contigu à cette salle de presse, un petit vestibule, c'est là que les officiers relisent les papiers des journalistes. C'est le bureau de la censure, une nécessité stratégique mais également politique, parce qu'il faut maîtriser l'image de la guerre auprès du grand public. Les journalistes quitteront le château en août 44, conclut Figaro, mais ils reviendront après la guerre, comme comme John Morris, fondateur de Life. Alors, 75 ans après, Laurent Geoffrin, passionné d'histoire et directeur de Libération, explique le rôle de l'information dans la vision de ce 6 juin 44. Car à chaque époque, le politique, en fonction du contexte et de ses intérêts, tente de tirer la couverture à lui. Les Américains vont s'auto-célébrer au sortir de la guerre. On reconnaîtra ensuite le rôle décisif des Anglais, puis celui de la résistance française. Mitterrand fera, lui, du débarquement et de la commémoration l'occasion de célébrer la coopération internationale. Chirac, celle d'intégrer l'Allemagne aux commémorations. On finira par y convier les Russes et c'est justice. Aujourd'hui, conclut Laurent Geoffrin, les gouvernements américains et anglais ont en fait tourné le dos au principe de coopération hérité de l'après-guerre. Derrière les hommages à l'héroïsme des soldats du 6 juin, se profile la pure et simple trahison de leurs idéaux.
Merci David Abiker. Et vous entendez derrière nos voix les cloches des églises d'Arromanches ici en Normandie.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Les officiels ne sont pas très loin, la sécurité est maximale et ces commémorations. Je vous remercie de les vivre avec nous dans cette matinale spéciale d'Europe 1 ici en direct des plages du débarquement. Vous restez bien avec nous, merci David Abiker pour la revue de presse et attention, lui débarque dans un instant. Moi c'est une première, vous l'attendez, ça va faire du bruit, Nicolas Canteloup et sa revue de presse, à tout de suite.
Avec Mathieu Béliard, c'est jusqu'à 9h sur Europe 1.
Attention, le voilà, Nicolas Canteloup et Julie. Bonjour Nicolas. Nicolas.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et l'actualité, c'est bien sûr les célébrations du jour, le débarquement. Tout de suite, on retrouve Nikos pour nous en parler.
Athènes, ici Athènes. Les matinaliers parlent aux matinaliers. Le 7-9 est au grec. Je répète, le 7-9 est au grec. La moussaka est matinale. La moussaka est matinale. Ok ?
Ok, Béliard, prends pas trop tes aises, hein. Commence pas à changer le papier peint, c'est ma matinale ici, ok ?
Oui, Nikos.
Fais de malin ces petits drapeaux, là.
Mais Nikos, vous pouvez pas être partout, hein, préparer la finale de The Voice et faire la matinale. Allez,
on vous comprend. Ça va, tout ce que je vois, c'est que moi, on m'avait envoyé dans une centrale nucléaire et Mathieu Béliard, on l'envoie à la plage, ok ? Super sympa, merci Europe 1.
Ah non, c'est vrai.
Bon, bref, je reste pro, pas d'émotion, je reste pas d'égo. Europe 1 célèbre donc, chers auditeurs, le débarquement. Europe 1, radio sponsor du débarquement et de Roland Garros. Sponsor donc des Français qui résistent face aux Allemands et sponsor des Français qui résistent ni aux Espagnols, ni aux Suisses, ni à aucun étranger muni d'une raquette. Allez, prends sur moi, à vous Julie.
C'est bien vu.
Avec votre Mathieu. Là.
Allez, merci. Nico, c'est votre Mathieu, il a dit. Allez, aujourd'hui, Europe 1 est donc à Arromanches pour les célébrations du débarquement, notamment cette initiative mémorielle. 300 vétérans britanniques qui ont à nouveau traversé la Manche.
Mais voilà, encore des migrants.
Oh, mais qu'est-ce qu'il y en a, Nadine?
Mais ouais, mais écoute là, Leclerc, voilà, je l'avais déjà dit, j'avais prévenu, les migrants, si on n'est pas super ferme, ben ils continuent à débarquer et ça débarque, mais qu'on les renvoie chez eux, ces vieux. Mais écoutez, franchement, on a déjà ce qu'il faut en grabataire avec des cannes chez nous. Non. Merci.
Non, Nadine Morano, ce ne sont pas des migrants, ce sont des vétérans britanniques.
Ouais, des vétérans. Écoute, essaye pas de m'embrouiller. Tout ça pour piquer nos retraites. Mais go back, oui, parce que je parle anglais. Go back, les roast beef. Back with Brian, in the kitchen ou in the garden, ce que tu veux avec ta yellow umbrella. Hein, ici, c'est chez nous. Moi, je paye mes impôts pour que les infirmières, elles changent des couches de nos vieux à nous, des vieux français, enfin, pas des roast beef délabrés, ok ?
Mais écoutez, non, mais ils nous ont aidés, enfin. Vous avez appris l'histoire de France, vous ?
Vous avez appris. Non, mais elle me prend de haut. Non, mais tu te prends pour qui? Mais je la connais aussi bien, l'histoire de France, avec l'auteur. J'ai lu, j'ai été formé, moi, par Michel Machin, là.
Michel Serres, parce qu'on en parlait avec vous cette
non,
semaine.
Non, mais non, arrête avec tes références de merde. Michel Sardou. Qu'est-ce qui. Mais oui, mais c'est la culture. Ah, mais dès que c'est populaire, ça vous plaît pas. Michel Sardou, qu'est-ce qu'il a dit? Hein, il a dit, si les riches, je cite la citation d'auteur, si les Américains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Eh bien, excuse-moi, les roast beef, c'est pas les Américains. Alors ça dégage, sinon je viens moi-même desserrer les freins de vos fauteuils. Hein, on verra s'ils savent toujours nager à Omaha Beach. Hein, Béliard, il a dit qu'il fait beau. Ils auront leur maillot, j'espère.
Oh là 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 là, bon écoutez, on n'y arrivera pas avec vous. Hein. On vous laisse. Merci Nadine Morano. si je puis dire. Emmanuel Macron accueille aujourd'hui une dizaine de chefs d'État pour commémorer le débarquement. On l'accueille tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui, nous commémorons le débarquement. La France, pardonnez-moi, vous le savez, a été envahie par la bêtise, la brutalité, la violence, oui. Donald Trump est arrivé ce matin sur notre territoire.
Oula. Bon, les relations ne sont toujours pas au beau fixe entre vous. Hein. Et vous allez avoir un déjeuner avec lui hein, à la préfecture de Caen hein, tout à l'heure.
Oui, aujourd'hui est un jour où il faut comprendre le sacrifice de ceux qui nous ont libérés. Et quoi de mieux pour comprendre ce que c'est qu'un sacrifice, pardonnez-moi, qu'un déjeuner à la préfecture de Caen.
Non, s'il vous plaît. Non, sérieusement, vous êtes apparu particulièrement ému hier hein, avec les vétérans.
Oui, parce que ces vétérans, ce ne sont pas juste des petits vieux en fauteuil ou en béquille avec 32 médailles qui distendent les mailles de leur pull.
Oh, le détail.
Vous savez, hier, je suis allé voir des vétérans. Ils dînaient. Oui, ils dînaient.
Oui.
Et pendant qu'ils faisaient des bulles avec leur purée,
oh là là.
Je me suis dit que ce sont des héros. Je tiens à leur rendre hommage ce matin. Bravo les gars, bravo. On ne sait jamais s'ils nous écoutent et que leur sonotone n'a pas grillé.
Oh là 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 là, bon, merci Monsieur le Président, ça va suffire. Aujourd'hui est donc un jour d'hommage aux vétérans. Valéry Giscard d'Estaing, on ne le sait pas forcément, mais vous êtes décoré de la Croix de Guerre, vous aussi,
oui.
Hein, c'est ça?
Oui, bonjour à tous, je ne comprends pas, le débarquement, et vous, vous êtes en direct de Montbéliard. J'allais parler de Montbéliard. Ça, franchement, vous êtes trompé de destination.
Ah, Mathieu Béliard, c'est ça?
Oui, Mathieu Béliard. Oui, Montbéliard, ça franche compté, Montbéliard. Montbéliard, ce matin, vous êtes à côté de la plaque. Niveau géographie, vous n'avez pas débarqué au bon endroit. GPS, n'existait pas à l'époque. Oui, je suis Croix de Guerre. Donc, garde à vous, repos, caporal Leclerc. Je suis moi-même un vétéran. C'est Monsieur Béliard, d'accord, j'ai compris. Je vois le faire le malin avec son beau bureau recouvert de petits drapeaux. Il est très joueur. Il joue avec ses petits drapeaux. Si vous pouvez jouer avec les petits drapeaux ce matin, Monsieur Béliard, c'est grâce à Bibi.
Alors, racontez-nous votre souvenir de cette journée du 6 juin.
Garde à vous, pardon, ça me revient. Oui, tenez-vous droit, Leclerc. Bon, écoutez, c'était... Alors, ce 6 juin, quel est mon souvenir du 6 juin? Si vous voulez, finalement, on en fait tout un plat. Mais c'était une journée assez banale pour moi, bizarrement assez classique.
Ah bon?
Oui, j'avais fait des choses assez habituelles. Je me suis levé comme tous les matins à 5h30, petit déjeuner. Ensuite, j'ai mis mon casque en fer, 58. Et puis, comme tous les matins, je suis allé capturer une unité allemande de 20 soldats. La routine. Ensuite, j'ai enchaîné avec le souvenir d'un petit léger footing, une biscotte. J'ai fait une petite pause sur la plage d'Omaha, une petite crique où j'avais invité quelques amis pour pique-niquer. Et puis ensuite, j'ai coordonné. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu inhabituel de coordonner cette opération militaire marine de débarquement. Ça m'a sorti un petit peu de la routine, c'est vrai. Ensuite, j'ai fait une petite pause vers 15h, j'ai entamé une petite sieste. Mais je me souviens, j'avais courté cette sieste. Il y avait trop de bruit.
Non, mais enfin.
Ça pétardait partout. J'ai dit, bon, c'est pas peine d'insister. Je dormirai. Ensuite, je fais sauter 2-3 charges ennemies.
Oui, non, mais enfin, que vous racontez là.
Ensuite,
non,
à 18h, j'ai regardé et j'ai fait les lettres.
Non.
Ensuite, pétaradé encore. Les gens qui nageaient partout.
Mais qu'est-ce que vous racontez?
Incohérent, nager avec tout un barda, il coulait. C'est pas cohérent, mais un maillot. Moi, je joue en maillot. Et mon torse, c'est assez bronzé. J'ai pas bronzé. C'était 6 juin. Les gens me regardaient effarés. Il y avait une sorte de tour de contrôle qui se promenait sur la plage. Il disait, c'est cet homme, il est courageux.
Monsieur Giscard d'Estaing, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je vous demande vos souvenirs, mais là, vous me racontez n'importe quoi. Il y a des témoins quand même.
Et si on parle de témoins, les témoins aujourd'hui ont 97 ans. Je ne sais même pas s'ils sauraient vous raconter. Ils ne sauraient même pas surveiller la cuisson de 300 grammes de nouilles. Je sais bien qu'ils se rappellent. Ils ne se rappellent pas de ce que j'ai fait pour témoigner.
Bon, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, monsieur Giscard d'Estaing.
J'ai écrit un ouvrage de ce sujet. Bon.
Et puis direction Lyon maintenant, Gérard Collomb est soupçonné de détournement de fonds. Son domicile a été perquisitionné et nos équipes étaient sur place.
Monsieur Colomb, ouvrez, police, ouvrez.
Qu'est-ce que c'est que ce tout ce rame-dame ?
Rame-dame ?
Bonjour monsieur Colomb, désolé, ordre de perquisition. Les gars, vous me fouillez la baraque de fond en comble, ok ?
Non mais, non mais écoutez, mais c'est quoi ces méthodes-là ? Non mais arrêtez, non, s'il vous plaît, non, vous laissez ça tranquille, brigadier, vous posez ce classeur immédiatement.
Commandant, regardez ce classeur, il y a les photos du président Macron.
Non,
allez, il y a même celle-là. Un slip là.
Non,
monsieur Colomb, vous avez des explications sur ces photos là du président qui fait des abdos là.
Écoutez, je n'ai pas brigadier à me justifier sur ma vie privée. Donc vous non, s'il vous plaît, non, n'ouvrez pas ce placard. Non, c'est mon courrier personnel. Non, ne touchez pas cette boîte. C'est ma collection de mèches de cheveux d'Emmanuel. Non, c'est dégueulasse. Ce que vous faites est dégueulasse. On ne jette pas les mouchoirs usagés d'Emmanuel que j'avais gardés précieusement. Mais qui c'est quoi ces méthodes ? Commandant, je veux vous parler. C'est quoi ? C'est qui ? C'est Castaner qui se venge parce que, oui, je le dis, j'ai envoyé un émoticône en forme de cœur au président de République. J'ai le droit de le faire. Et non, vous ne touchez pas ça. Vous ne touchez pas. C'est un moulage, j'y tiens, s'il vous plaît. Vous pouvez toucher à tout, mais pas mon moulage en plâtre du torse d'Emmanuel. Non, si vous allez me le casser.
Oh, la collection.
Commandant, regardez ce que j'ai trouvé, regardez. Une poupée gonflable. Oh, non. Avec une tirette, là. Attendez, je tire dessus.
Gérard, j'aime travailler avec toi. Gérard, j'aime travailler avec toi.
Arrêtez ça. Non, touchez à ma... Non, ne touchez pas à ça. Ma poupée parlante. Non, vous savez quoi ? C'est ma poupée parlante. C'est ma... Vous n'avez pas de cœur. Vous savez quoi, brigadier ? Comment ? Je me plaindrai. J'espère qu'Europe un jour diffusera ce témoignage honteux de méthode honteuse. Je demanderai qu'on lave mon honneur.
Eh ben, non. Heureusement que c'est fini.
Nicolas Canteloup sur Europe 1, merci Nicolas. Et merci aux auteurs de la revue de presse, Laurent Vassilion, Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière. Merci à toute l'équipe de La Matinale et au vrai Nikos aussi de m'avoir accueilli ce matin pour cette belle spéciale en direct d'Aromanche, des plages du débarquement sur Europe 1. Le tour de la question tous les matins, 9h-11h avec Wendy Bouchard. Bonjour Wendy.
Bonjour Mathieu.
Au programme ce matin, on continue je crois cette spéciale débarquement.
Complètement, on prolonge après cette densité d'informations, voir comment le D-Day se raconte depuis 75 ans et notamment dans la culture. La filmographie est assez impressionnante évidemment, Le jour le plus long, vous le connaissez bien ce film. Et puis la BD s'y met aussi, je vais recevoir notamment un auteur de l'opération Overlord, 6 tomes consacrés notamment à ce jour stratégique. La culture populaire et orale évidemment, et puis les documentaires, la télévision nous aide beaucoup sur le sujet, à l'heure.
Et bien justement, c'est hors antenne que Charles Villeneuve me racontait cela, vous savez d'où vient l'expression le jour le plus long, d'où vient ce titre de film?
C'est Rommel je crois.
Ah vous le savez tout, oui. Le maréchal Rommel qui avait prévenu ses troupes de l'invasion, parce qu'on disait pas débarquement côté allemand, oui. De l'invasion à venir, et ce jour là sera le jour le plus long,
préparez-vous,
disait-il. Et puis toutes ces BD dont vous parliez, je les vois ici autour de moi puisque nous sommes au cinéma à Romanche 360. Ici, je remercie au passage le mémorial de Caen qui nous a accueillis pour cette matinale spéciale. 9h-11h, Wendy Bouchard, à tout à l'heure.
Merci Mathieu, à tout à l'heure.
Et elle attend vos appels, Wendy, dès maintenant au 39-21, à suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe. Il est 8h55, à suivre l'essentiel de cette matinale spéciale en direct d'Aromanche avec vous, Mathieu Béliard, mais tout de suite, la météo, Laurent Cabrol.
Laurent, il fait magnifique ici encore, hein, le temps tient.
Ah, très bien, il tient, restez là, ne bougez pas, vous allez vous rentrez dans le sable, vous portez bonheur. Bon, en tout cas, les nuages et les pluies arrivent malheureusement par la Bretagne, d'autres pluies, mais là, aujourd'hui, c'est une journée de transition, donc pas trop d'inquiétude, chers amis, nous aurons la plupart du temps quand même des éclaircies et surtout assez peu de pluie, hormis sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique, où là nous aurons les averses qui vont nous affecter demain. Et demain, croyez-moi, ça va être très mauvais. Donc profitons-en, profitons de cette journée et nous aurons pratiquement partout ce ménage à trois, averses, éclaircies et nuages, et qui ensuite, disons, vont se transformer de plus en plus en couches nuageuses. Les températures vont se situer entre 18 et 26 degrés et il fera 18 degrés chez vous à Romanche, mon cher Mathieu, et à Colville-sur-Mer 15 degrés cet après-midi.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le jeudi 6 juin, on revient sur les moments forts de cette matinale spéciale avec vous Mathieu Béliard.
En face de nous, Gold et Juno, c'est ainsi que les alliés avaient renommé ces plages. Les chefs d'État se rassemblent aujourd'hui pour les cérémonies de commémoration avec eux, plus de 500 vétérans comme à Ver-sur-Mer. Emmanuel Macron et Theresa May y sont en ce moment pour poser la première pierre d'un mémorial en l'honneur des soldats britanniques. 21 000 d'entre eux avaient perdu la vie lors de la bataille de Normandie, lors d'Autriche.
Face à la mer, sur ce futur mémorial aux panneaux gigantesques, seront gravés tous les noms de ceux qui ont sacrifié leur vie. Les vétérans ont aujourd'hui presque tous plus de 95 ans. Et pour le public aussi, ce 75e anniversaire du débarquement a une saveur toute particulière. Ils savent que c'est probablement la dernière grande occasion de voir ces vétérans.
C'est impressionnant de voir les gens vont très souvent vers eux et ils sont très réceptifs à ça et c'est très émouvant.
Le devoir de mémoire et les souvenirs d'une femme de 93 ans. Elle s'appelle Mary Scott. Elle est anglaise, décorée de la Légion d'honneur hier. Il y a pile 75 ans, c'est elle qui transmettait les ordres aux troupes qui débarquaient sur les plages normandes. Le 6 juin 44, elle était à Portsmouth, aux télécommunications. Écoutez, un témoignage exceptionnel ce matin sur Europe 1. C'était à 8h15.
Les hommes qui recevaient ces messages étaient les soldats qui débarquaient sur les plages de Normandie. Quand ils nous répondaient, on entendait très, très distinctement les combats derrière eux, les bruits des mitrailleuses, les hommes qui criaient. C'était vraiment l'enfer. La confusion était totale. Ça devait être terrifiant pour eux, car ça l'était pour moi. J'étais quasiment avec eux.
Et puis à 7h45, vous avez peut-être entendu ces futurs commandos marines, l'élite de l'armée française, des militaires qui ne s'expriment jamais. Ils s'appellent Maël et Steven. Cet après-midi, le président Emmanuel Macron va leur remettre le béret vert. Une première, Charles-Louis Villeneuve les a rencontrés. On les écoute.
Quand on veut faire commando marine, on n'attend pas forcément de reconnaissance derrière par le grand public en fait.
Ce qu'on nous apprend au stage commando, c'est l'humilité et de savoir agir en secret. C'est notre fierté à nous, défendre ma patrie, la France, et également faire de ce pays un pays sûr et pour que ma famille, mes amis puissent y vivre paisiblement. On est venu ici pour ça et on continuera coûte que coûte.
Un témoignage exclusif que vous retrouvez en longueur sur europe1.fr. Voilà pour l'essentiel de cette matinale spéciale. Ici, en direct d'Arromanche, les 75 ans du débarquement. Tout de suite, un dernier point sur l'avancée des troupes alliées avec Thierry Geffrotin.
Europe 1 vous fait revivre le débarquement. Thierry Geffrotin.
Nous sommes le 6 juin 1944, il est 8h59 et tout d'abord, une information en provenance de Berlin. L'entourage d'Adolf Hitler a décidé de réveiller le Führer pour l'informer qu'une opération de débarquement est en cours en Bessène. Hitler s'est couché fort tard, à 4h du matin, il a pris un somnifère, mais les événements sont jugés suffisamment graves pour interrompre son sommeil. Sur le terrain, la situation est toujours critique dans un des deux secteurs américains, nom de code Omaha. Les soldats sont cloués au sol et les opérations de débarquement ont été interrompues faute de place sur la plage. La mer est en train de monter. L'autre plage américaine, Utah, est sous contrôle. Plus à l'est, Anglais, Canadiens, Français sont solidement établis sur les plages, mais les combats se poursuivent. Merci Thierry Geffrotin que l'on va retrouver toute la matinée, toutes les heures sur Europe 1 pour vous faire vivre ce débarquement en temps réel. Vous ne manquerez rien, une nouvelle édition spéciale. Nous gardons le studio d'Europe 1 ici à Arromanche. Vous retrouvez Raphaël Duchemin et Pierre de Villeneuve à partir de 12h30. Un grand merci à toutes les équipes techniques et toutes les équipes de la rédaction d'Europe 1 qui ont permis cette matinale spéciale en direct des plages du débarquement. J'espère que vous avez appris des choses. C'est l'essentiel. Bonne journée à toutes et à tous sur Europe 1.